Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi, surtout bonsoir. C'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 18 mars 2024 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 79e volet de l'Entrepode. Une équipe presque complète, car oui, c'est depuis mon home studio que j'enregistre cette présentation, étant retenu par des choses bien plus intéressantes que cette émission. Car oui, intéressant reste une chose captivante, prenante, et c'est un peu ce qu'il caractérise. Il est passionné de tout, et ça, c'est puissant. Et c'est tant mieux, car qui poserait les questions que personne ne se pose? Qui demanderait pourquoi ceci, pourquoi cela? Et c'est pour ça qu'il est ici, paré à recevoir les réponses qu'il aura posées dans un flot incessant de questionnements. Je nommé Monsieur Lulu.
Hello!
Fumier!
Fumier!
Lui est passionné et passionnant, d'une modestie à toute épreuve. Il s'est enfin décidé à nous montrer toute l'ampleur de son talent qu'il gardait au fond de lui, et ça, c'est captivant. Et entre ses dons de musicien, d'écriture et de narration, il s'est mis à l'aquarelle qu'il expose ce week-end. Mais malheureusement, quand cette émission sortira, cette date sera passée. Ça, c'est terriblement décevant.
On sera peut-être le 18 mars.
Christophe.
Bonjour, c'est pas faux.
Lui a pour passion l'art de faire rire, qu'il partage avec son double et comparse JR. À deux, ils forment une équipe ô combien proche et éloignée, en plus délicatesse, mais balayée d'un revers de manche par le second, et c'est frustrant. L'amour et la possession de l'un sur l'autre est parfois bien difficile à gérer dans un si petit corps, et ça, c'est déstabilisant. J'ai nommé Arnaud.
Bonjour.
Mais restons sur ce dernier, car si Christophe a des passions cachées qu'il s'est enfin décidé à nous montrer, le père Arnaud en vit une de passion, et une belle. C'est exaltant. Une passion qu'il s'est enfin décidé à nous dévoiler depuis deux émissions, mais que je n'avais pas encore décrit dans ses moindres détails. C'est intriguant. Une passionnée passionnante, c'est donc une femme agile dans le domaine de la céramique, qu'elle façonne de façon habile et experte pour en ressortir des collections plus belles les unes que les autres qu'elle imagine de ses mains. C'est envoûtant, elle vient agrandir l'équipe de l'Entrepode, et c'est tellement agréable de voir la jambe féminine s'agrandir avec sa venue, c'est féminisant. J'ai nommé Virginie.
Alors j'ai peur.
Il a fait de la
cam, salut, il est lent, il est très lent.
Elle trouve dans des écrits anciens et
tiens,
des récits du plaisir et de la passion. Elle aime découvrir en des temps jadis comment monsieur le comte s'accouplait avec la baronne dans une exaltante chevauchée couchée sur une peau de bête devant une cheminée enflammée de désir.
Il pense à lui.
C'est excitant. Et Dieu sait que ces récits captivent son auditoire à la lecture de ceci. C'est prenant. J'ai nommé Christelle.
Et bonjour.
Il est polyvalent dans cette émission, à la fois garant du temps, il sait décrire avec bienséance les invités quand ils sont présents. Son quiz est composé de questionnements qui nous rappellent à notre petitesse par rapport à cette montagne de savoir. Un jour, j'arriverai à répondre à une de tes questions. Je te jure, un jour, j'y arriverai. J'ai nommé Freddy.
Salut Père Foras, salut à tous.
Dans la série des passionnés passionnants, nous avons le champion de toute catégorie, plus intéressé que quiconque autour de cette table. Il est avide de savoir et de culture. Il n'est pas un instant où il nous rappelle que tu as une chose à ressortir et qu'il serait intéressant de le découvrir. Car en plus d'être communicant, il est tellement attachant. Je lui redonne donc les rênes de l'émission qui, soi-disant, me laisse un peu dans le ballon. J'aurais quand même bien voulu être présent dans ce foyer de fort talent. J'ai nommé Nico. Bye les amis et bonne émission.
Et merci.
Oui, je vais dire. Il fait que des rimes en hanche, je crois que c'est un peu plombant en fait.
En tout cas, je sais pas où il l'a trouvé, mais ça a l'air d'être de la bonne. Hein.
Je crois qu'il fait une dépression.
Un hommage à Christophe, peut-être. Hein.
Peut-être. Christophe, re-bienvenue parmi nous. Le problème, je suis sûr qu'on t'a manqué.
Le problème, c'est que moi, ça va. En fait, je pense que je lui ai refilé ma dépression. C'est quand même...
Toi, ça va mieux du coup.
Oui, moi, ça va très bien.
Et donc, nous revoilà en chair et en os dans notre studio habituel de l'Entrepode. Un mois après avoir enregistré notre émission hors des murs, dans le très sympathique épicerie bar Les Ronches. Et je crois qu'un mois pile poil, après notre dernière émission, certains.
Un mois pile poil.
On invente des trucs, voilà, soyons fous. Vous êtes trop à cheval. Hein.
C'est jour après poil.
Vous êtes du genre à reprendre les gens qui font des fautes de liaison.
Je vois le genre.
Toi, t'es plutôt à cheval, ma femme est plutôt à poney. Elle est un peu différente.
Super. Et première minute, premier vide.
À poney à Canal Plus. Finalement, est-ce que c'était une bonne idée cette émission? Donc tout ça pour dire que certains retournent aux ronches dès ce soir, parce qu'il y a un concert qui se tiendra là-bas. Donc on voit qu'on fait pas que du one shot ici, on suit nos dossiers au long cours. Donc c'est vraiment un truc très très intéressant. Ludo y était allé la dernière fois, justement le soir pour le concert. Christelle et Freddy aussi.
Non,
non, t'étais pas toi.
Non, je gardais notre enfant malade. Ouais.
Ah mince, mon pauvre, excuse-moi, je le savais pas. Bon, donc en tout cas voilà, on continue, on souhaite toujours bien de plein de réussite à nos anciens invités. Et aujourd'hui, bah, pas d'invité. Comme vous l'avez entendu peut-être si vous n'êtes pas endormi pendant l'intro de Marius. On se retrouve sans invité et presque au complet. Malheureusement, Marius n'est pas là pour des raisons indépendantes de sa volonté. Mais vous avez entendu dans notre intro que Christophe était de retour parmi nous.
C'est lui notre invité.
Ouais. Ouais. On aurait pu faire ça. Alléluia.
Alléluia. Non,
Christophe,
ouais.
Si on n'a pas d'invité, tu t'improvises invité pour nous parler.
Si vous voulez, ça va être... j'ai une super actualité, donc ça va durer des plombes. Hein.
Donc il n'est pas là, effectivement. Marius n'est pas là, mais il nous a rappelé que Virginie rejoignait l'équipe.
J'ai envoyé un hologramme.
Effectivement,
pas moi qui suis.
L'équipe, on n'est pas encore à la parité, loin de là, mais en tout cas, effectivement, on essaye de féminiser l'équipe, même si c'est pas une fin en soi, en tout cas.
Arnaud parlait d'une opération.
Te concernant, oui. Je vais la faire moi-même.
Et moi, je vais au Brésil cet été, donc.
Voilà, vous avez Brésil. Toutes les coulisses de l'entrepode.
Ah, trop bien.
Pour me faire opérer.
Pour se
faire
opérer. Ah, je crois qu'elle l'a.
Bienvenue au premier degré.
Non, ben voilà. Bienvenue.
Oh, ça va être drôle, cette nouvelle chroniqueuse.
Mais je pensais que t'allais vraiment...
Les bisous.
Ouais, ça y est, c'est fait.
Parle dans le micro.
Ah, pardon.
Pour dire des choses comme ça, faut dire dans le micro. Et donc, on a trois rubriques cette fois-ci, ce mois-ci. Pas d'invité, mais trois rubriques. Christelle, Ludo et moi-même. Nous allons donc revenir sur des sujets qui sont plutôt dans nos domaines de prédilection. Enfin, on va voir, mais a priori, j'ai eu le conducteur, donc de toute façon, je suis pas trop surpris de mon côté. Et puis, nous terminerons notre émission avec nos habituels 60 secondes chrono, dans lesquels nous présentons coup de cœur, coup de gueule, etc. Notre minute consacrée. Tout ça en environ 2 heures, certainement moins, puisque effectivement... on va voir parce qu'on n'est pas à l'abri.
Ne jure de rien.
On n'est pas à l'abri de quelques digressions diverses et variées. Mais bien sûr, Marius n'est pas là, mais nous avons quand même besoin d'argent. Donc, nous allons lui laisser nous parler.
Ah, génial.
Alors, les petits pilotes, alors le ménage vous plaît, vous en voulez encore? Ah, c'est parti des sensations.
J'ai reconnu certaines clientes.
Des cheveux dans les yeux. Allez, vous en voulez encore?
Je te balade, j'ai pas envie.
Vous en voulez encore? Il vous donne un pipi. Oui, le pipi est là pour vous aider à avoir plus de sensations dans la vie. Vous pouvez donner 1 euro, 2 euros, 10 euros, même 100 euros, c'est un grand malade. Hein, allez, on y va. C'est reparti pour un tour. Sur l'entrepôt light.
Ça
la drogue.
Franchement, c'est peut-être pour ça qu'après il n'avait plus d'énergie.
Ouais, il avait tout donné.
Il a tout donné. Si ça ne vous donne pas envie de contribuer au Tipeee de l'entrepôt, alors vous n'avez peut-être pas compris à quoi servait le Tipeee.
On peut peut-être expliquer.
Mais effectivement, pour nous soutenir, si vous le souhaitez, sous forme d'un pourboire, quel qu'il soit, ça peut être ponctuel, ça peut être dans la durée, etc. En tout cas, toute petite contribution est bonne à prendre. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on continuera de faire nos émissions.
Est-ce qu'on doit changer le siège de la cartelle?
Exactement.
Et quand on dit pourboire, c'est pourboire.
Bon, voilà. Oh, Frédéric, tiens, t'as
un des. On reconnaît un accent de quelque chose. Hein.
J'ai voulu t'imiter, faisant le gars du répondeur.
Alors, éviter, c'est un peu comme Beetlejuice. Si on l'invoque 3 fois,
oui,
il apparaît.
Candyman.
Donc. On va passer tout de suite à la suite pour éviter de laisser un interstice pour le laisser se présenter. Et donc, Christelle, es-tu prête de ton côté à enchaîner?
Ouais,
c'est
je vais
parti.
T'enchaîner.
Je me fais sucer la friandise. Je me fais briquer le casse-noisette. Coquine. Mais pas que.
Alors Christelle, de quoi nous parles-tu donc cette fois-ci,
eh bien,
ce mois-ci?
Il y a quelques semaines de cela, et sans doute aussi suite à la rentrée scolaire marquée par la polémique de l'interdiction de la baïade dans les établissements scolaires, J'ai eu l'occasion d'avoir une discussion un peu vive avec une très bonne amie par ailleurs sur la question du no bra et de la notion de tenue correcte exigée. J'ai été frappée de voir à quel point l'éducation, la culture, disons-le patriarcale, avait encore un poids immense quant à nos façons de voir le vêtement. Et ce qui m'a échauffée un peu à ce moment-là, surtout, c'était la façon dont on voit le vêtement féminin. Beaucoup de femmes ont sans doute vécu cette expérience durant le confinement, où nous avons toutes relâché la pression vestimentaire, de se libérer notamment du port de soutien-gorge. Et j'en profite, Virginie, tu es une femme, est-ce que tu as lâché ton soutif?
Non.
Moi, je propose que vous y alliez.
Arnaud, oui, parfait.
Arnaud,
je me suis laissé pousser les seins pendant le confinement.
J'avais dit, il faut être un peu 2023, là. Il faut y aller aussi. 2024, d'ailleurs.
En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour ma part. Et je l'avais déjà un peu entamé lors de mes grossesses. Plus de routine professionnelle pour moi, ça signifiait aussi plus d'obligations et je pense vraiment injonction à porter un soutien-gorge de manière quotidienne.
Mais ça dépend peut-être aussi comment on est. Enfin,
je sais tu pas veux dire qu'elle n'en a pas besoin en fait.
Mais t'as raison,
oui,
c'est vrai.
Tout à fait. Autour de moi, nombre de mes copines ont aussi découvert le bonheur d'abandonner ce bout de tissu élastiqué, voire baleiné, souvent inconfortable. En tout cas, inconfortable pour moi qui n'ai pas besoin d'avoir un maintien important. Donc oui, ça dépend aussi du maintien que tu as. De retour à la vie normale et aussi dans un mouvement de libération de mon corps, j'ai décidé non pas d'abandonner complètement le soutien-gorge, mais en tout cas de me questionner sur son port systématique dans un souci de confort à moi-même. Freddy pourra en témoigner.
Le port systématique, c'est moi.
Avant cette période, il n'était pas rare en effet que le soir, en me déshabillant, mon corps soit marqué par les stigmates, le mot est fort, je sais, de ce maintien élastiqué sans que je m'interroge sur le confort réel apporté par le port du soutien-gorge. Tu confirmes ?
Oui.
Élastiqué Freddy ?
Je l'ai bien élastiqué.
Je reconnais. Il faut savoir reconnaître quand le talent est là. Hein.
Pour revenir donc à la discussion un peu houleuse que j'ai eue ce soir-là avec cette amie, nous en étions arrivés à des positions qui semblaient totalement opposées. Elle me disant...
Ça tombe bien.
Elle me disant, mais merde, moi j'ai pas envie de voir des meufs avec les tétons qui pointent. Ah oui, okay. Et moi, avec le discours chevillé au corps, que si le téton la gênait elle, ce n'était pas à celle qui le portait libre de se brimer pour faire plaisir à ceux ou celles qui étaient dérangés. Irréconciliables étions-nous ? Je ne pense pas.
J'ai une question. Ce qui la gêne, c'est quoi ? C'est son regard à elle ou le fait que des hommes voient des femmes ?
Les deux, capitaine, je pense.
D'accord.
Je pense que c'est un peu des deux. Donc, loin de moi l'idée de donner une leçon, car cette discussion était pour moi l'occasion de m'interroger encore une fois sur la nature des injonctions faites au corps féminin. Puisque, disons-le clairement, il est encore question de la sexualisation du corps féminin, et non pas celui des hommes. Pour vous dire, on en est même arrivé à comparer un téton mâle qui pointe à un téton féminin, et j'ai lancé un peu vivement, aidé par le vin. Moi, ça m'excite carrément de voir un mec dans une petite chemise moulante avec un pantalon moulant, et je vais pas hurler à la sexualisation de son corps comme agression pour mes yeux. Ou quelque chose dans ce genre. Ouais. Bref.
C'était moins bien dit.
Encore mon côté woke qui veut qu'on se questionne, sans pour autant dire que j'ai la réponse, sur le vêtement féminin et sur les injonctions dont il est l'objet. Tandis que le vêtement masculin, lui, bien tranquille, a vu sa petite vie de maigre tentative de libération de la couille.
Oui.
Ce qui est notable.
Moi, c'est parce que j'ai des baleines en fait. Ouais, voilà. Tu parlais tout à l'heure de porc et c'est un peu le problème en fait.
On est d'accord.
J'ai besoin de beaucoup de.
Ce qui est notable. Il y a besoin de support. Ce qui est notable dans les échanges que nous avons eus, c'est que notre époque vit en effet un grand bouleversement dans la mode et dans le vêtement féminin. Et à mon avis, un bouleversement qui est intimement lié avec le après MeToo et à la plus grande visibilité de la communauté LGBTQ qui est plus propice à la casse du système patriarcal. J'arrivais plus à le dire. La casse du système
patriarcal
et de ses injonctions sur le corps des femmes et des hommes. Et cela m'amène à une réflexion plus historique sur le vêtement. Ma vie est en fait de signes et de belles rencontres. Je me suis aperçue que je m'étais déjà confrontée à la question du vêtement féminin à travers l'histoire. Durant mon année de maîtrise de lettres, pendant laquelle j'ai édité un roman libertin du XVIIIe siècle, j'avais dû mener pour mes pairs un exposé sur le vêtement et sur la mode au XVIIIe siècle. Et je m'étais à juste titre réjouie de voir que fanfreluche, poudre et couleur n'étaient pas seulement l'apanage des femmes à cette époque. Bien des années plus tard, il y a ça à peu près 5 ans maintenant, j'ai eu la chance aussi de servir de modèle mannequin pour mon amie Amandine Rioul, à qui je fais un petit bisou en passant, qui devait élaborer de toutes parts un costume d'époque 19e siècle pour valider son diplôme de costumière. Et j'ai dû m'habituer progressivement au corset qu'elle a façonné sur mesure sur moi, avant de me voir décorée de tissus de taffetas et autres drapés dont j'ai oublié les noms techniques. Et comme de fait exprès, juste après cette conversation houleuse que j'ai eue avec mon amie et les questionnements qui me sont venus, je suis tombée, un peu par hasard, sur un bouquin qui est paru en 2023, intitulé « Paré » et sous-titré « Enquête sur l'émancipation vestimentaire des femmes » de Ivan Jacob aux éditions Hugo Doc. Alors là, je peux vous dire que j'étais lancée pour cette chronique et j'affectionne tout particulièrement ce thème. Et j'ai eu aussi le plaisir de voir en janvier une exposition qui vient de se terminer hier d'ailleurs je crois au Palais Galliera, une exposition qui s'intitule La mode en mouvement, c'est dans le 16e.
D'accord.
C'est juste à côté du Palais de Tokyo. C'est un musée de la ville de Paris. Donc les collections sont gratuites et les collections particulières sont payantes. Et donc ça retraçait l'évolution du vêtement notamment sous l'influence de son lien avec le sport. C'était vraiment super. Alors, faisons ensemble un petit parcours historique qui, je l'espère, vous amènera sur le chemin du questionnement, pas forcément de la déconstruction, mais quand même un petit peu, sur le vêtement et en particulier le vêtement féminin. Je ferai d'ailleurs aussi référence à une autre exposition que je n'ai pu découvrir qu'à travers son superbe catalogue, une exposition qui s'intitulait « Tenue correcte exigée quand le vêtement fait scandale ». Et là, je me retiens de faire une petite imitation de Georges Marchais.
Ah non, ne te retiens pas, s'il te plaît.
Vas-y. T'as bien fait de pas te retenir.
Je te dis, c'est à s'y méprendre, hein, quand même.
Autant que Freddy quand il fait Chirac.
Alors, évidemment.
Tu peux le remontrer juste, Christelle, ouais. Parce qu'effectivement.
Et puis, l'expo est géniale. Je passerai après pour que vous puissiez.
Juste pour les gens qui ouais. ne le voient pas forcément, là, et on puis, voit que la couverture, c'est juste un jean troué. Des choses de ce genre-là, effectivement, à une époque c'est troué, là où maintenant c'est devenu voilà. des usages.
Enfin, voilà, c'est ça, exactement. C'est la vraie question du qu'est-ce qui choque et qu'est-ce qui fait scandale.
Moi, quand t'avais ça à l'époque de Kurt Cobain, t'étais assimilé,
drogué, quoi.
Et maintenant, c'est vendu comme ça dans les magasins.
Voilà, donc, évidemment, nous nous plaçons ici dans une culture occidentale, et cela appuie donc mon argument principal de dire que le vêtement masculin ou féminin ne peut se détacher d'une culture, des us et coutumes d'un continent, d'une religion et d'une météo même. Et que le tétin odieux en Occident ne l'est pas tant dans d'autres sociétés. Notre société donc est marquée par le christianisme et nous pouvons donc parler de mode et de vêtements sans évoquer le symbole qu'est le vêtement. Je vais donc citer un texte, voyons si vous connaissez. Alors les yeux de tous s'ouvrirent et ils reconnurent qu'ils étaient nus.
Et je connais pas.
C'est dans la Bible, hein.
C'est la Genèse.
C'est la
Bible.
Ah ouais.
C'est la Genèse.
La tournure.
Donc pour le christianisme, le vêtement est le symbole visible et toujours visible du péché originel. Il rappelle la faute. Il se doit donc d'être le plus sobre et le plus discret possible. Alors ce qui marque le début de ce qu'on pourrait dire être la mode, c'est vraiment le 14e siècle, donc le Moyen-Âge. Avant, nous n'avons malheureusement pas de traces, on a seulement on a retrouvé des bouts d'armure, des morceaux de chemise, de pourpoint. Il reste des images et des textes, mais c'est sans doute biaisé par la censure. Et si on devait faire un rapport avec aujourd'hui, c'est un petit peu comme les images des réseaux sociaux ou des magazines de mode qui resteront dans l'histoire, mais qui ne sont qu'une partie de la réalité du quotidien de tout un chacun. Donc, avant le 14e siècle et durant l'Antiquité, hommes et femmes étaient en cotte et donc en robe. Au 14e siècle, les hommes se mettent à porter une nouvelle chose qui s'appelle le pourpoint, qui est une veste courte et matelassée. Et donc, ils doivent donc se couvrir leurs jambes de chausses, qui sont des sortes de collants, et qui c'est vraiment un vieil ancêtre du pantalon. Donc, aux garçons, la liberté du vêtement bifide, celui qui libère les jambes, et de l'autre côté, pour les femmes, les couches de jupons qui entravent les mouvements. Et ce qu'il faut dire, c'est que ces nouvelles modes masculines sont quand même tout à fait critiqué par les moralistes, les ecclésiastiques, mais que c'est quand même presque toujours du côté des femmes que l'on va reprocher d'inciter à la débauche.
Oui, mais elles le cherchent aussi.
Voilà. Et c'est parti pour des siècles. Merci Nico. C'est parti pour des siècles.
Après, on se plaint, mais quand on tente. Voilà.
Parallèlement.
Vous faites les choquer. Vous faites les choquer.
Freddy, quand il parle de gamin de troisième.
Parallèlement à ce pourpoint, donc le vêtement des femmes s'ajuste, il devient plus moulant, les formes et les robes se resserrent au buste et à la poitrine, le décolleté se creuse, ce qui énerve encore plus les moralistes, mais pas de problème. on va vous coller un petit voile noir sur le téton que l'on ne saurait voir, et c'est l'invention de ce qu'on a appelé le tassel, qui était donc un voile qu'on remettait par-dessus ce décolleté que l'on ne saurait voir.
Pourquoi les vêtements sont plus près du corps?
Pour un peu de mouvement quand même, parce que le grand drapé, il fallait de toute façon commencer à resserrer par la taille, et disons-le aussi, parce que c'est plus joli. Oui. Pour les hommes.
En fait, une ambivalence, c'est ça en fait.
Ouais, c'est ça, qui a initié ça, le fait que les vêtements seraient plus resserrés sur les femmes
Ceux qui les fabriquent, sans doute. Ceux qui les fabriquent, sans doute.
Passer des portes parce que...
Alors ça, c'est dans les portes. Alors il y a aussi une autre différenciation sexuelle qui se fait par la coiffe. Il faut couvrir les cheveux si l'on est une femme. Celles qui sont chevelures au vent, dès le Moyen-Âge, ce sont les prostituées et les folles. Bon, bah c'est QFD. On connaît encore aujourd'hui la question du cheveu féminin à cacher.
Avec une évolution.
Plus ou moins.
Ouais, c'était pas mal quand c'était caché quand même, des fois.
Et alors là, on y va pour de nombreux traités sur l'éducation des femmes, étonnamment rédigés par des hommes qui plus est voués au célibat et à la chasteté. Je n'en citerai qu'un, mon préféré.
Pascal Praud.
Jean de Capistran. Alors Jean de Capistran dit en 1430, il convient aux femmes de se montrer plus modestes et plus pudiques que les hommes, et ceci par devoir de soumission à l'homme, et aussi pour ne fournir d'occasion à la luxure que l'aspect de la femme en particulier habillée suscite. Alors si celui-là vous le croisez, vous lui direz de ma part qu'il peut se la mettre quelque part, sa luxure.
Dis donc, Jeannot.
Hein, parce que Capistran. Hein.
15e siècle, c'est ça?
Donc, ouais. Et puis bah, on est encore ce fameux comment vous étiez habillé quand on parle de violences sexuelles faites aux femmes. Dès lors, on voit les premières tentatives de travestissement de femmes qui cherchent dans le vêtement masculin non seulement la liberté de mouvement qu'il procure, puisqu'on a un vêtement bifide, on peut courir, on peut voyager, mais aussi et surtout la liberté tout court de bénéficier des mêmes droits que les hommes. Ensuite, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas le Moyen-Âge qui voit brûler les sorcières, mais c'est plutôt durant la période de la Renaissance que les femmes vont fortement subir le joug des bulles papales féminicides. Et ainsi, par exemple, elles vont perdre le droit d'exercer la médecine et notamment tout ce qu'il y a à la gynécologie, qu'elles maîtrisaient quand même plutôt pas mal. Et la chasse aux sorcières commence véritablement en 1484 avec le pape Innocent. Alors celui-là, Innocent VIII.
C'était avant qu'il fasse le jus de fruits.
Gros bâtard. Ouais, c'est clair. Et voilà donc la période de la première rencontre avec le sous-vêtement modelant et contraignant qu'on appelait le corps piqué ou baleiné, inventé en 1530. C'est une sorte de corset rigidifié par un rembourrage et maintenu par des surpiqûres, donc c'est des coutures vers le haut, toutes vers la hauteur. On ajoute aussi une autre invention qui s'appelle le vertugadin ou la vertugale, qui est une espèce de jupon rigide qui donne du volume à la jupe et qui permet d'accentuer avec le corps piqué la finesse de la taille. Donc on resserre en haut, on resserre, et puis on a cette espèce de gros cul sur les côtés, un peu
ouais,
partout.
J'aime bien ça.
Et alors, ce qui est drôle, si vous voulez bien, après je vous montrerai des images sur mon téléphone, parce que c'est quand même pas piqué des hannetons. En 1520, les hommes ne sont pas en reste du côté de la nouveauté de la mode, puisque c'est l'invention de la braguette. Mmh. Mais pas comme vous l'entendez aujourd'hui.
C'est vieux, ouais.
Alors, la braguette...
C'est un ruban, non, au début?
Alors, non, c'est pire que ça. Il s'agissait d'une sorte de fourreau en cuir ou en tissu, imitation du sexe dressé vers le ciel et rembourré dans des proportions défiant tout réalisme. Je vous engage...
Tout réalisme, t'as que Freddy pour comparer. Hein, mais...
Je t'assure, même Freddy... Il a un gros kiki.
Tu peux encore monter comme un mammouth.
Voilà. Donc, je mettrai sur le site...
Félix, il a un gros kiki.
Il y a un portrait de Giovanni Battista Moroni qui a fait un portrait d'Antonio Navagero. C'est vraiment une braguette, mais pour le coup, c'est une espèce de protubérance.
C'est un peu comme maintenant dans les costumes de Sganarelle ou des choses comme ça.
Est-ce que c'est de la mode est-ce que c'est là parce que c'est, j'entends les noms italiens, est-ce que c'est de la mode italienne, est-ce qu'il y a des, tu sais, s'il y avait des variantes en Europe?
Alors c'est plutôt européen, et effectivement la Renaissance naissant en Italie, d'accord, elle vient par la mode aussi, voilà, exactement, irriguée, je sais pas si c'était la Renaissance accentue donc la différenciation de genre et l'idée que la mode devient un sport féminin commence à germer. On a pu d'ailleurs critiquer à ce propos amplement Henri III, qui portait boucles d'oreilles, bijoux et hauts de chausses trop courts, et on l'a accusé d'effémination, l'insulte suprême. Donc Yvan Jacob, l'autrice de Paris, nous fait d'ailleurs remarquer que ce qu'il y a de pratique quand on construit une silhouette de manière artificielle, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut insister sur une partie du corps, en dissimuler d'autres, et faire comme si tout tout cela était dans l'ordre naturel des choses, jusqu'à ce qu'il ne vienne plus à l'idée de personne de le contester. Arrive le 17e et le 18e que je vais englober comme elle le fait elle aussi, avec une évolution de la silhouette. Désormais, ce qu'on demande aux femmes, c'est de plaire. Et comme elles n'ont pas encore le droit de le faire par leur esprit ou par leurs actions, quel autre champ que celui de la mode leur reste-t-il ? Donc on accumule les couches, chemises, jupons, puis encore jupons, puis jupes. En haut, corsage à baleine, surmonté d'un autre corsage, puis encore un autre. Le vertu gadin qui ne va pas cesser de s'amplifier, des kilomètres de tissu. Et l'on est même obligé de prendre des cours de maintien avec ces tenues pour apprendre à marcher. La rigidité sert à la silhouette altière de l'aristocratie. Si elle gêne les mouvements, ce n'est pas grave, car une femme de ce rang n'est pas là pour faire des acrobaties. Et on doit se différencier des femmes du peuple qui sont au travail dans les champs.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce que tu décris là, c'est dans un certain milieu, une certaine classe sociale. Parce que ce que je me demande, c'est comment
nous n'avons que ça pour l'instant. Ah, c'est ça, c'est-à-dire que les seuls dont on a les traces, c'est ceux qui savent écrire. Et c'est ce que je dis après. Ceux qui savent écrire sont l'élite. Donc effectivement, on a peu de traces du vêtement plus populaire, on va dire. Élément important aussi, les talons portés au XVIIe et XVIIIe siècle par les femmes et les hommes, ils deviennent l'apanage des femmes seulement en 1730. Donc à partir de 1730...
Sarkozy remettant au goût du jour.
Voilà, cette petite talonnette. Okay. Fin XVIIIe siècle,
là, et là je vais
prendre un peu des images pour montrer quand même un peu. Fin XVIIIe siècle, après l'ampleur prise par les robes des femmes avec leurs paniers sur les hanches, la mode tente à se rendre un peu moins rigide et plus vaporeuse. Et on a le portrait de Marie-Antoinette qui a été modifié. Parce que dans cette robe-là de, je sais plus comment s'appelle la peintre, Lebrun, pardon, on la voit dans une petite mousseline vaporeuse. Et donc c'était à la mode, mais on lui a demandé quand même de refaire une version beaucoup plus classique avec son grand drapé et puis ses paniers sur les côtés que l'on voit notamment dans le film Louis de Funès comment s'appelle ce film,
je sais plus,
La Grande Vadrouille, non n'importe quoi,
Elle ou la cuisse,
mais
avec
Yves Montand et Alice
La
Folie des Grandeurs.
Merci. Donc voilà, c'est ça les paniers. On peut plus passer les portes, etc. Et donc si pour les classes modestes, comme tu le disais Ludo, on sait peu de choses pour les classes modestes, les femmes des élites se mettent à écrire et elles évoquent enfin leurs habits dans leurs écrits personnels. Certaines racontent comment elles s'habillent en hommes pour mieux monter à cheval, parce que évidemment c'est l'apanage de l'élite. D'autres pour s'enfuir de maris violents en s'habillant en homme. Certaines évoquent aussi l'immense contrainte de l'habit. Il y a par exemple Madame de Genlis qui dit « Je ne mangeais rien du tout parce que j'étais si serrée que je ne pouvais à peine respirer ». Vraiment, il y a des problèmes de santé, on commence à le voir. Et pourtant, si beaucoup se plaignent de leurs habits, d'autres femmes soulignent que l'usage du corps à baleine, quand il est bien fait, est sain pour la santé. Il placerait bien les épaules, ouvrirait la poitrine, soutiendrait les seins. Donc, ceci dit, Yvan Jacob nous rappelle que si les femmes se plient au jeu, c'est aussi par acceptation des règles du paraître, par une nécessité de se conformer à une façon de faire, et notamment où à la cour, décider de ne pas imiter ses congénères, c'est s'apparenter à un suicide social.
Se mettre à devenir un paria, quoi.
Voilà. Et de même, aujourd'hui, si on fait le parallèle, la question du poil féminin, par exemple, a été énormément liée au socialement acceptable, ou pas, et il est heureux de voir les courageuses féministes ouvrir la voie du fait du poil plutôt un ami plutôt qu'un ennemi, et où chacun fait comme il l'entend. La médecine à l'époque aussi, au XVIIIe siècle, commence à se mêler de la question et critique le port du corset pour des questions de santé.
Pour le dos, ouais, peut-être, non ?
Un peu plus tard, même plus. Hein, y a les côtes, ouais, les tout, côtes tout flottantes,
la digestion,
enfin, c'est très compliqué. En 1821, il y a un médecin, Prosper Gassot, dans Considérations médicales sur les corsets dont les femmes sont usage, dit « À la vérité, il faut moins blâmer la femme que la plaindre. C'est l'homme qui l'a assujettie à cette contrainte ridicule. Il l'a trouvée belle avec un corset. Pourquoi cesserait-elle donc d'emporter ?» Oui.
Je me permets de faire. Ça m'a évoqué un truc, on parlait des corsets, etc. Je sais pas pourquoi j'ai eu un flash. Je sais pas si vous avez vu les traditions chinoises des petits pieds.
Les petits pieds, évidemment.
C'est pareil,
c'est hallucinant.
Mais quel traumatisme pour les personnes quand tu vois comment. Enfin, quand tu vois que c'est. Enfin, moi, je comprends pas qu'on s'inflige ce genre. Enfin, pas qu'on s'inflige, parce que c'est culturel.
C'est culturel.
Et c'est facile de juger ça.
Ou les jeunes femmes avec le cou, tu sais.
Les femmes girafes
avec leur cou.
Et à chaque fois,
c'est les femmes à plateau.
C'est des femmes, en fait, sur qui ça tombe essentiellement.
Moi, dans ma famille, on faisait la même chose avec la bite.
La bite à plateau.
Non, la bite, la bite girafe.
T'appelles l'homme girafe
pour Non, je parlais des petits pieds, moi.
Et du coup, je sais pas si tu. Enfin, une question qui se pose. Enfin, moi, par rapport à ce que tu dis, c'est la question, c'est comment t'arrives à sortir de cette spirale. Parce que, effectivement, si. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qu'on entretient en se disant, c'est une certaine forme, pas de pouvoir, mais d'influence que peuvent avoir les femmes en disant justement sur la séduction, on va essayer de. Quand tu regardes les liaisons dangereuses, justement,
justement
les femmes ont un pouvoir parce que justement elles abusent de cette. Elles usent plus qu'elles abusent.
Elles n'ont
pas le bon
que
terme.
Ça en fait.
Mais du coup,
elles n'ont plus que ça au 18e siècle.
Après, on
dit qu'elles sont superficielles. Mais bon.
Ben voilà, hein, exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, la révolution, puisqu'on arrive à la fin du 18e, la révolution, elle est le début
de
des luttes féministes. Non, parce que non. La révolution et le début des luttes féminines n'a malheureusement pas changé la façon de s'habiller. En 1793, la Convention décide par exemple d'interdire les clubs féminins parce qu'on commence à prendre peur et que Louise Michel, tout ça, c'est bien gentil, mais il va falloir se calmer. Olympe de Gouges, ça suffit, voilà. Donc le 19e siècle va s'ouvrir sur un retour de la rigidité dans l'habit. Parce que le 19e siècle, oh là là, dans l'habit, la rigidité de l'habit.
Vous auriez dû voir le faciès de Freddy.
Non mais je le sais.
J'aurais dû dire vêtements. Hein.
Et après on me dit que ma chronique est finie. Alors là,
10 bonnes minutes.
Donc le 19e siècle, siècle politique chaotique, il est aussi le siècle où émerge enfin le militantisme féminin. C'est le siècle des premières fois. Jeanne de Rouen, première candidate aux élections législatives. Julie Victoire d'Aubigny, première femme à obtenir son doctorat de médecine, mais sans le droit d'exercer, etc.
Ah, on peut pas tout avoir non plus.
Mais aussi, malheureusement, le retour en force du corset. La silhouette des femmes est artificiellement construite par tout un attirail de vêtements, chemises, corsets, cache-corsets, amplificateurs de manches, en haut, structure en bas avec des paniers, tournure. La tournure, c'est un faux cul. Je montrerai aussi des images.
J'en connais.
La crinoline, invention de la crinoline qui, soit dit en passant, serait très confortable pour les mouvements. Bref. Mais le vêtement masculin n'est pas en reste du côté de la rigidité. C'est le passage des habits roses, de soie, de jaune, décorés de rayures et de motifs floraux et autres brocarts et broderies à du noir. Coupe sombre et sobre, reliée aux valeurs de la bourgeoisie, ordre, morale, épargne.
Enfin un peu de bon goût.
Et alors, nouveauté aussi dans le vêtement masculin qui impose la rigidité, c'est le boutonnage. Surboutonnage de la redingote qui en dessous, la veste est boutonnée elle-même, chemise boutonnée elle-même, avec voilà toute cette attirail du sobre et de la rigidité.
Alors, il y avait des espèces de stylistes à l'époque ou qui justement qui enclenchaient ça, cette évolution de l'habit ou
très souvent
plus...
c'est lié à ton mode de vie et justement le vêtement sert à comme on est dans un siècle qui évolue aussi dans la bourgeoisie qui va travailler dans le milieu des banquiers, des affaires, etc. Le vêtement ne peut plus être aussi fanfreluché, aussi pour le côté pratique de l'affaire. C'est vraiment la question du pratique. Et la femme, de ce côté-là, devient un objet d'apparat, puisque l'apparence de la femme est le signe de la réussite de leur mari. Shopping.
Par contre, tout reste planqué. Je veux dire, décolleté, cheville, machin, tout ça.
Pour les femmes, oui.
On revient à quelque chose d'hyper, plus de
décolleté. Pour le coup, terminer le décolleté et on remonte jusqu'en haut avec des petits cols très très fermés. Exactement. Donc c'est aussi le siècle du shopping hein, où le sport féminin est enfin installé avec l'émergence des grands magasins, tandis que la presse véhicule aussi de plus en plus les modes à suivre. Mais c'est aussi le siècle des premières prises de parole en faveur d'une réforme du vêtement féminin. Et les Anglaises ne sont pas en reste. Par exemple, Catherine Barbie, très joli prénom, mais très joli nom. La femme est esclave des institutions politiques, mais aussi serve des règles, serve féminin de serre, hein, des règles sociales, les coutumes notamment vestimentaires la tyrannisent. Il faut un nouvel habit pour la free woman. Ainsi, des femmes font des tentatives nouvelles en adoptant des pantalons bouffants à la turque, resserrés aux chevilles. Alors là, je vais vous montrer aussi des images. Je vais retrouver, évidemment.
À quel siècle apparaît la claquette chaussette ? Alors,
là, on est voilà, sur les robes 19e siècle.
Visiblement, c'était pas cette époque-là.
Très volumineuse. Ça, c'est la tournure.
Ah oui, la tournure.
La tournure, je vous montrerai des photos tout à l'heure, parce que j'en ai porté une pour le costume qu'on a fait sur moi. C'est une espèce de queue d'écrevisse caché en dessous, monté avec des baleines et par-dessus lequel on va faire ce drapé monumental. Et donc ainsi les femmes, donc je disais, elles essayent quand même de faire des tentatives et de mettre des pantalons resserrés aux chevilles. Et d'ailleurs j'ai appris que le bloomer, qui est la petite culotte bouffante des bébés aujourd'hui, vient de Amelia Bloomer, qui portait ce genre de pantalon, donc une jeune américaine qui portait avec façon ostentatoire de dire je suis plus libre avec ce vêtement là.
Ok, bloomer.
Excellent, il l'a. Donc en fait c'est encore une fois la nécessité d'avoir un vêtement plus confortable. Et ce qui est renforcé par quelle invention incroyable du 19e siècle ?
Le soutien-gorge.
La bicyclette.
Ah, pardon.
C'est pas confortable, on est sur le confort.
J'ai pas suivi, moi. Je suis resté sur l'image du début, moi.
Parce qu'en fait, la révolution du vêtement féminin passe aussi par la pratique du sport. Puisque le sport est désormais une pratique d'hygiène, encouragée par les médecins, comme une pratique de loisir pour les classes aisées, le vêtement sportif s'approprie peu à peu la rue et habitue l'œil à des tenues plus pratiques. Et c'est bien de ça dont il s'agit à mon sens, et que j'ai défendu lors de ma conversation avec ma copine, qu'il s'agit d'habituer l'œil. Je suis sûre que chacun autour de cette table a pu remarquer dans les rues à quel point la nouvelle génération se joue complètement des codes passés. Certaines meufs assument pleinement leurs poils et ont totalement arrêté l'épilation. D'autres ont définitivement abandonné le sacro-saint soutien-gorge aux grandes dames de ma boxe.
Mais là, Freddy, tu te trahis quand même.
Tandis qu'aussi, les mecs, alors encore trop souvent de la communauté LGBT, les mecs aussi osent des vêtements que l'on qualifierait, nous, les anciens, de féminins. Et même si Arnaud le dira, mes excentricités capillaires peuvent s'apparenter à une forme de libération. Moi-même, même si je suis ravie de voir tout ça, je n'en suis pas moi-même à aller jusqu'à toutes ces formes de libération. Je suis encore, par exemple, très épilée et je me sentirais vraiment très mal à l'aise de sortir avec du poil aux pattes. Mais ce que j'adore, en fait, c'est cette nouvelle façon de penser et de vivre son corps. C'est la possibilité de laisser à chacun de se vivre comme il l'entend. Et mon premier réflexe de boumeuse, justement, c'est d'abord d'être interpellée par cette jambe de fille un peu poilue ou ce regard d'homme charbonné au mascara. Mais je me force désormais à me dire que, en fait, c'est plutôt cool que chacun puisse avoir ce degré de lâcher prise pour vivre et se sentir bien comme il le veut. Au XXe siècle, on va terminer là-dessus, là, les révolutions vestimentaires, elles sont plus marquées, puisqu'on passe de la tenue du corset début 1900, qui va évoluer vers la gaine avec l'évolution des matériaux, le caoutchouc, etc., jusqu'à, dans les années 70, pour faire le grand bond, au jean basket t-shirt de Jane Birkin. Donc là, on a vraiment un lien vraiment étroit entre libération vestimentaire et émancipation.
Qui, je crois, ne portait pas de soutien-gorge.
Qui ne portait pas et qui n'en avait pas besoin. Mais c'est vrai que c'est possible. Donc en fait, ça ne règle pas tout. Et je pense qu'il faut vraiment attendre le 21e siècle et ces 5 dernières années, il me semble, pour voir arriver une réelle déconstruction des dictats sociaux et genrés de la mode. À ce propos, je vous encourage à réécouter l'émission sur Inter qui s'appelle Zoom Zoom Zen sur la mode non genrée qui est passée le 14 mars, donc c'était vraiment incroyable, je suis tombée là-dessus, avec la styliste Jeanne Friot qui propose une approche redéfinie des codes de la mode puisqu'elle propose une mode non genrée avec des vêtements portés aussi bien par des hommes que par des femmes. Il n'y a pas de genre dans sa collection. C'est hyper intéressant.
C'est marrant, pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui est rigolo, je trouve, c'est de voir l'avancement, c'est-à-dire que le fait que les vêtements de la femme se rapprochent, finalement, vont vers les hommes, on va dire, sur les
pantalons. Mais l'inverse n'est pas encore vrai.
Ça change quand même. Il y a des grands couturiers
qui mettent des robes,
oui, mais des hautes coutures, qui habillent quand même les hommes avec des vêtements qui sont plutôt entre guillemets,
oui, historique dans la, dans la rue, ça reste,
mais dans la rue, ça reste très très marginal.
Oui, mais dans la rue, ça reste marginal parce que
mais
les gens n'osent pas emporter,
oui,
parce que t'es étiqueté, t'es étiqueté quelque chose, quoi.
Donc là, il faut pas, qu'on habitue notre œil.
Et puis c'est pas proposé, ces vêtements-là sont pas proposés dans les H&M et tout.
Ça reste encore de la haute couture, mais n'empêche que ça avance, quoi.
C'est là où le jean a fait quand même un.
Et vous serez à même de voir le petit détail de la couille qui pend.
Oh mais non.
Oh mais oui.
Je vous laisse passer.
Il n'y a pas que la couille.
Il y a, oh, putain. Ouais, enfin là.
Ah ben voilà.
Moi j'ai pas envie de voir des couilles qui pendent.
Eh ben voilà. On revient là-dessus. Bon,
Virginie, c'est quand même un petit épagnol tout mignon.
Non, mais là, on voit pas que la couille en plus.
Comme si tu tapotais la tête.
C'est une question d'éducation de ton œil.
Bah oui, c'est ça.
Non, mais on est sur la même chose en fait.
Ouais, je sais pas. Je suis pas prête là. Je suis pas prête du tout.
Ah bah mais dors.
Je pense qu'on n'est pas prêt. Alors pour le coup.
Il y a la robe de à côté là, celle qu'on a vue.
Non, mais je pense que. Tu sais, quand tu disais. Enfin, les vêtements du Moyen-Âge,
oui.
Les corsets, toute cette mode-là, c'était de la haute couture Manfred d'aujourd'hui. Les gens, on peut comparer ça à la haute couture d'aujourd'hui.
Sauf que la pression du christianisme était telle que tu ne pouvais pas te balader en pantalon si tu étais une femme, de toute façon.
Non, mais c'est parce que
c'était interdit. Ouais. tu brûlais.
Oui, non, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est que...
Oui, mais c'est une image,
tu vois, la comparaison,
une des réalités.
Les gens qui n'étaient pas dans la bourgeoisie ou des nobles, ils n'étaient pas habillés comme ça, il n'y avait pas de corset, il n'y avait pas de...
Bien sûr, mais personne pour l'instant n'est habillé non plus comme ce jeune homme.
Écoute,
Dieu nous en garde.
L'invention du jean slim, en fait, qui a été faite pour les hommes, c'est aussi pour, comme on dit, mouler le paquet, quoi.
Bah, on est d'accord.
Et donc,
mais c'est aussi très féminin au départ, le jean slim. Hein. C'est pas tellement masculin à la base.
Il s'est transposé.
Mais il s'est transposé.
Au corps masculin, quoi. Justement.
Par le biais des LGBT, souvent, c'est eux qui s'approprient aussi le vêtement.
Mais aujourd'hui, le jean, on va dire moulé,
oui,
tout le monde le porte,
oui, tout à fait. Donc c'est bien une question d'habitude.
Enfin,
c'est caché, c'est quand même plus sexy que quand tout est à l'air.
En tout cas, la tenue du jeune homme là, elle est un petit peu particulière parce qu'en fait, elle tombe sous le coup de la loi.
Oui, là, c'est
pas comme ça dans la rue.
On est d'accord. Donc pour terminer, j'ai vraiment l'espoir que cette nouvelle génération et les tentatives de libération, même extrêmes, nous pousserons à déplacer notre regard sur le corps féminin, à le désexualiser au moins dans l'espace public, pour lui laisser toute sa place et toute sa liberté dans l'espace intime d'être ce qu'il veut, avec qui il veut. Ou comment terminer en beauté par chacun fait ce qui lui plaît.
Ah, Niagara.
C'était quelque chose à l'époque.
Merci
Christelle.
C'était
vraiment intéressant. C'est vrai que c'est moi ce qui m'interpelle toujours parce que je ne suis pas confronté à ça et à chaque fois que j'entends parler d'un sujet auquel je pense pas au quotidien, c'est le fait de dire que, alors moi ça se voit que je fais pas trop attention à comment je m'habille, mais le fait de dire que quand on est une femme,
c'est déjà une preuve.
Moi j'ai pas posé la question de est-ce que j'adhère à un fonctionnement, est-ce que je me positionne en opposition. Je me pose jamais cette question là de me dire est-ce que je pérennise des usages ou pas, parce que, et là où effectivement
et
de temps en temps
Delphine
se pose la question quand
il
cherche un truc, qu'est-ce que ça va donner comme image de moi.
Exactement.
Et moi je me pose jamais cette question.
Par exemple,
mais je devrais peut-être d'ailleurs.
Est-ce que nous les gars autour de cette table on porterait une robe demain?
Vous seriez tellement beau.
Je dis ça, là on parle mais réellement.
Mais pourtant,
je suis pas certain qu'aujourd'hui on soit prêt à franchir ici autour de cette table le cap.
Il y a quand même certaines cultures qui portent.
Mais c'est bien une histoire de culture.
Qui portent des pieds là-bas en fait, et donc c'est comme une robe très longue.
Mais là dans le quotidien, alors il y a deux choses. Il y a ton quotidien professionnel et il y a le quotidien.
Non mais je dis pas qu'il faut pas la porter. C'est pas.
Est-ce que tu serais capable de le faire?
Est-ce que je me dis demain je sors dans la rue, je mets une robe et j'y vais? C'est juste que je crois que je suis encore assez pris dans mes schémas sociaux.
On l'est tous.
Tu vois,
on l'est tous. En fait, il faut juste s'interroger.
T'as une photo de toi?
J'ai une photo de Nico et moi en robe.
Il fait une tête.
C'est une soirée. C'était quelle soirée?
En robe, moi en jupe.
Mais oui, c'était à Franqueville-Saint-Pierre d'ailleurs.
Je crois que ça me dit quelque chose.
C'est pas Franqueville.
C'était un jour de l'an.
Pour ceux qui donnent, au Tipeee.
Alors, attends. Jour de l'an, etc.
On parle du quotidien.
Alors, tu vois, il y a la petite limite, enfin, pas la limite, mais je me suis déjà fait la remarque de est-ce que je le ferais.
Je parle au quotidien, au boulot.
C'est des choses, ne serait-ce que des kilts où il y a pas mal de choses qui peuvent être cette espèce d'intermédiaire.
Parce que c'est moins pratique aussi, en fait. Parce que t'as pas de.
Certainement.
Alors, je vais vous lire juste la petite phrase d'introduction du livre qui m'a fait, mais ça m'a fait tilt, et je pense que toutes les femmes ont déjà ressenti cette phrase. À toutes les femmes, les filles qui se sont au moins une fois tard dans la nuit retrouvées loin de chez elles sur des chaussures à talons hauts en se disant et merde, et aussi mais pourquoi. Et en fait c'est exactement ça, c'est-à-dire que combien de fois moi je suis sortie en mini-jupe, talons hauts, en fin de soirée, la question c'est par où je passe, parce que j'ai pas envie de me faire emmerder.
Bien sûr.
Et la deuxième question c'est putain j'ai mal aux pieds, pourquoi mais pourquoi je m'inflige ça. Et en fait cette phrase elle a tout résumé en très peu de mots ce que la mode féminine impose. Alors, oui. De manière générale on va dire, et en tout cas le questionnement que je ne me faisais jamais avant, c'est-à-dire je faisais ça.
Et est-ce que tu changes du coup?
Non, pas pour autant.
C'est pas du jugement, c'est une question. Est-ce qu'il y a un changement de paradigme dans ton fonctionnement?
En fait, je me suis aperçue, ne serait-ce que dans le cadre du travail, très rapidement j'ai abandonné la chaussure à talons. C'est très rare que j'en mette parce que je suis debout toute la journée, je marche, je piétine. Donc je rappelle, je suis enseignante, donc c'est très fatigant. Et ça me fait mal. J'adore bosser en basket ou en chaussures plates, donc ça me va très bien. Donc déjà, il y a eu ce premier changement où je me suis assumée aussi. Je rappelle aux auditeurs qui ne peuvent pas me voir que je fais 1m55. Je pourrais aussi me dire, oui, mais le talon me donnerait une prestance, etc.
On parlait de Sarkozy tout à l'heure.
Exactement. Et au début de ma carrière, étant jeune et petite, j'ai mis des talons. Vraiment. Mais c'était un outil de travail très désagréable.
Alors il y a quand même effectivement l'outil de travail où, là où les hommes peuvent avoir aussi de grosses contraintes, notamment
Le
où t'as pas le droit de mettre en short.
Putain,
parce que tu dois mettre une cravate, tu dois avoir des machins. Moi j'ai eu pas mal de problèmes comme ça dans un grand groupe où je devais,
et notamment
y avait une tenue correcte exigée
pendant les périodes de canicule, le pantalon, je veux dire, des fois j'aimerais bien mettre une jupe.
On revient au titre,
moi je mets le short.
Qu'est-ce qu'une tenue correcte exigée?
C'est pas toujours accepté.
C'est toute la question qu'on a eue aussi avec mes amis, de se dire ouais mais au collège ou au lycée les élèves des fois c'est pas la tenue exigée. En fait c'est quoi une tenue correcte?
Quand tu auras l'uniforme on en parlera plus, on sera tranquille. Au moins, enfin, génial. Des bonnes choses. Eh ben, très bien, on pourra en discuter encore plein de fois. Et si vous avez vous-même des commentaires, des remarques, si ça évoque quelque chose en vous, n'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux, sur Discord, sous le commentaire de l'article. Il n'y a pas de problème. On fera suivre à Christelle et puis
avec
même nous,
plaisir.
Ça pourra nous agrémenter nos réflexions en la matière. Et puis après ce sujet qui était fort documenté et tout ça, je pense qu'on va laisser la parole à quelqu'un qui a besoin de nous présenter quelque chose.
Ça sent la peine.
On a un petit message.
Je,
voilà. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit nous écouter en direct et qui s'est dit tiens il faut que je me rappelle alors mon souvenir
c'est pas l'auditeur dont on essaie de se débarrasser désespérément.
C'est l'occasion de rappeler qu'il y a un répondeur sur le site
et donc des gens en profitent, en usent et en abusent.
Mais est-ce qu'on connaît son nom d'ailleurs à ce gars-là?
C'est moi.
Non, mais il a même pas donné son nom sur les messages.
C'est Nico.
Bon, en tout cas il a un message à nous passer encore cette fois-ci, enfin j'en sais rien d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a laissé un message, mais qui est-ce? Suspense.
Oui, c'est bon. J'ai bien aimé l'émission des pistons. Oh bon, ça m'a rappelé mon quotidien. j'y suis allé. Pauvre ronche. Hein. Aux bronches. Au bistrot. Et il vend tellement de tabac que la cancérologue s'est installée à côté. Elle est belle. Je lui ai fait la cour déjà. Oui, elle voulait du gazon. Ah oui, non, pour le coup, pour vous voyez là, je suis plus moderne que ça. Puis, elle m'avait déjà vu. Oui, j'ai fait modèle pour les photos qu'on voit sur les paquets de cigarettes. Le trou dans la gorge et le joli sourire, c'est moi. je vais au bistrot. Et puis je vais voir si je peux entretenir le gazon de la voisine.
j'adore cet auditeur. J'aimerais tellement pouvoir le rencontrer un jour.
En vrai, vraiment, c'est quelqu'un qui gagne à être connu, je pense.
Gagne, oui.
Enfin, visiblement, vous le connaissez déjà tous, hein, si vous fumez ou vous avez déjà vu des fumeurs.
Il y en a peut-être un dans tous les bistrots.
peut-être que c'est
en tout cas, ça ferait un super invité. Hein.
Il a des choses à dire.
Ah ouais, je pense
partage. si on met tout bout à bout, la durée d'une rubrique.
Il doit avoir des anecdotes torrides.
Par contre, on planque les filles.
Quelle que soit leur tenue, effectivement. Et bah Ludo, tiens, toi, tu vas pas te planquer. Et on va te laisser la parole pour ta rubrique après le jingle.
Et maintenant, la bandelette de Prune.
Hello and welcome. Hit the record button.
This is the American Steve. Bandelette. Il t'a plu le film?
Salut double les amitiés. Bienvenidou. Bienvenidou in la rubrica la Madelena du Proutum de Loulou.
Oh là là.
Eh oui, chers auditeurs, chères auditrices, il se trouve que parmi mes nombreux talents, eh bien, je parloum couramentum, le latinum. Et ouais, c'est comme soum. Quand on est bonoum. Alors bon, manifestement.
Comme Christelle tout à l'heure avec le bifidusactif.
Avec le bifidusactif, j'ai pas suivi ça. Bon, vu vos airs, je vois un peu estomaqué, quelques explications s'imposent.
Oui, parce que pour l'instant, c'est pas trop du mal.
Exactement. Je rappelle donc ce concept de ma chronique d'une ingéniosité folle, puisque c'est moi qui l'ai conçu, qui consiste à choisir un film en lien direct, ou presque, avec l'émission du jour, l'invité du jour, la thématique du jour, le menu du jour, le jour du Seigneur. Bref, c'est la croix que je dois porter, et si j'ai su le faire depuis toutes ces années, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas encore aujourd'hui.
Oh, putain.
Et que vois-je donc en face de moi? Une confrérie, que dis-je, un ordre monacal entièrement voué à la cause du saint podcast.
C'est Marius qui t'a écrit ton texte.
Une assemblée d'apôtres aux trognes pour la plupart déformés par les maladies vénériennes ou par un bagage génétique un poil hasardeux. Hein, on va pas se mentir. De véritables moines copistes simples d'esprit qui enluminent leurs chroniques étriquées sous la couverne bien de l'abbé Nico, hein, qui est à ma gauche. Dont la rectitude et les principes podcastiques fleurent bon la sainte inquisition espagnole de nos grands-mères.
On te le voit. Bref, arriver avec ta grosse
tout
burde.
Tout cela m'excite follement. Et du coup, j'ai envie de vous dire que non seulement cette sainte vision me donum la subitum, envitum de dire la messe en latin, mais surtout, elle me ramène à mon bon souvenir, un film que j'avais eu grand plaisir à découvrir en son temps et que j'ai eu l'immense joie de revoir dans sa version restaurée en 4K. Ouais, mardi 12 mars. Ouais. Mardi dernier, au cinéma L'Omnia à Rouen, en présence de son réalisateur Jean-Jacques Hano. Et j'étais aussi accompagné de mes collègues Virginie et Arnaud, qui étaient avec moi, et c'était vraiment super classe. Je veux bien entendu parler du Nom de la Rose, qui est sorti en 86. Autant vous dire que ça ne nous rajeunit pas. Alors, le Nom de la Rose, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, de quoi que ça cause? Alors, pour faire très simple, c'est l'histoire d'un moine franciscain, Guillaume de Baskerville, et de son jeune trop Watson, beau. Ou plutôt Atso, qui vont devoir enquêter sur des morts mystérieuses survenant dans une abbaye du nord de l'Italie en 1327, pardon, le tout sur fond d'inquisition, de livres interdits, de vieux dégueux amateurs de jeunes hommes et de local de cuisine qui ne sert pas qu'à y faire à manger.
Suivez mon regard.
Donc ce film est tiré d'un roman célèbre du même nom.
L'as-tu lu?
Je ne l'ai pas lu. Non.
Je te le conseille.
C'est vrai?
Ah, c'est génial.
Je ne l'ai pas lu du tout. C'est vrai que je l'ai vu que
faut
le film.
Faut s'armer
en fait.
Un peu quand même, parce que c'est dense.
Ce que disait Jean-Jacques Hano, il disait pour ceux qui le lisent ou qui veulent se lire, ne vous emmerdez pas avec les pages en latin, les gars.
Il a dit carrément,
c'était pour la décoration,
mais oui,
tout ça.
Bien sûr. Donc, voilà, c'est même foutu de la gueule après en parlant de son livre, en disant non mais.
Voilà, il fallait juste
oui,
passer.
Allez-y, quoi.
Voilà. Donc bah écoute, je prends le conseil, livre à découvrir. Et donc, ce livre était sorti à l'époque en 1980, donc voilà, le film a été adapté 6 ans après. Et juste pour la petite anecdote, à l'époque, le film avait remporté plusieurs récompenses, hein, vraiment, ça a été dont le César du meilleur film étranger en 87, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, quant au réalisateur, lui, Jean-Jacques Hano, je dirais, sauf avoir vécu en
pas
Hermie,
très connu.
Ouais, voilà, hein, si vous avez juste... voilà, c'est ça. Hein,
Jean-Jacques Anus, en latin.
Mais pourquoi, j'ai envie de dire, juste cette question, pourquoi?
En fait, il faut qu'il ait une chronique, parce que sinon, on dit que des conneries aux autres.
Oh En tout cas, voilà, tout le monde a au moins en tête, si ce n'est pas, enfin, en tout cas, dans la tête, juste dans la tête, au moins un de ses films, que ce soit La Victoire en chantant, L'Ours, Coup de tête, La Guerre du Feu, qui était vraiment un très gros succès, L'Amant, qui avait fait d'ailleurs son mini scandale à l'époque, pénétration ou pas pénétration, je vous rappelle.
Mes premiers émois sur TF1.
Ah oui, mais ah oui.
Parce que je l'ai vu sur TF1, moi, et quand mes parents ont vu que je regardais, ils ont fait parce que trop.
Je me souviens, on était allé avec Didouille, c'était peu de temps que on était ensemble, et c'était en 92, et donc on est allé voir L'Amant ensemble.
Moi j'avais 10 ans.
Voilà, ah ben tu vois, moi j'en avais 54 moi donc. Bref, c'est en Tibet, Stalingrad, etc., etc. Jusqu'à Notre-Dame brûle, d'ailleurs, son dernier film sorti en 2022.
Ah, je l'ai vu dans le. Oh, pardon.
Je l'ai pas vu.
Je l'ai vu dans l'avion. Je l'ai vu dans l'avion.
Ah oui, d'accord.
Quand on est allé aux États-Unis.
Le Notre-Dame brûle.
Non, ah oui. Tu te souviens pas?
Non. C'est toi qui l'as vu.
Ah, c'était génial.
Bref, Le Nom de la Rose fait partie de ses grandes réussites, et pour cause, puisqu'on est littéralement transporté dans un Moyen-Âge plus vrai que nature. Alors, les décors sont juste splendides, un peu, franchement. Alors, d'autant plus avec les explications que Jean-Jacques Hano nous a données après la projection. Un truc que je ne savais pas.
Gros moi, budget, hein, quand même.
Gros budget, 16 millions de dollars à l'époque. Alors, il a équivalent. Alors, j'ai 16 millions de dollars, j'ai même vu sur internet on parlait de 20 millions de dollars, bon j'avoue que là après entre 16 et 20, lui il dit en gros avec l'inflation c'est entre 40 et 60 millions de dollars actuels, pour donner à peu près un ordre de grandeur. Et moi il y a un truc que je savais pas du tout, que j'ai découvert lorsqu'il nous en a parlé, c'est que l'abbaye médiévale que l'on voit est une pure reconstitution. Tous les décors extérieurs, c'est une reconstitution. C'est un truc de fou furieux. Ça fait partie d'un des plus grands plateaux décors qui ait pu exister. C'était juste énorme. Et c'est particulièrement impressionnant.
Il a expliqué ce choix, pourquoi il a préféré un décor construit.
Oui, il l'a expliqué, c'est-à-dire qu'en fait, il voulait, quand tu rentrais par la porte, par le portail, il voulait que l'on puisse voir cette énorme tour, la citadelle, notamment où il y a la librairie, et qu'il ne trouvait nulle part.
Qui est un personnage.
Qui est un personnage, ouais. Exactement. Et qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. Et il a fait plusieurs repérages, différentes choses.
Rien trouvé.
Mais en extérieur, hein, je parle, parce qu'en intérieur, il s'est retrouvé, il a trouvé des décors pour le coup. Mais en extérieur, il voulait ça. Et il a fait construire effectivement ce lieu pour avoir ces plans incroyables, ouais, d'ailleurs quand tu rentres dans l'abbaye. Alors, avec en plus une mise en scène qui est du coup carrément au diapason, puisque la mise en scène justement sublime tous ces décors-là. L'intrigue, alors ça je vous ai parlé du décor, mais l'intrigue est elle-même, de mon point de vue, complètement captivante. Non seulement l'intrigue qui est captivante, mais en plus, on pourrait se dire le contexte dans lequel se déroule donc l'histoire, on pourrait se dire, on a juste envie de fuir, quoi. C'est-à-dire, alors c'est quoi, tu dis, on va se taper un film
austère, ouais, un
qui se déroule dans une abbaye,
et
avec
en fait,
des moines,
en fait,
des histoires de bouquins interdits, des histoires de bouquins grecs, enfin Aristote, machin.
C'est un polar, en fait. C'est un polar.
Faut savoir que, encore une fois, je vais faire plusieurs fois référence aux interventions de Jean-Jacques Hano après le film. C'est exactement ce que se sont dit les producteurs français qui l'est allé voir, et qui d'ailleurs avaient réussi à réunir des fonds, d'ailleurs américains, mais qui les fonds qu'ils ont récupérés, ils ne les ont pas investis dans le film. Ils se sont dit, mais alors il a cité la référence à moi en parlant du producteur Mouchkine qui disait, alors, je ne vais pas faire l'imitation qu'il a faite, mais en disant, mais c'est n'importe quoi, t'es complètement fou.
C'est dommage.
Non, je suis incapable de le faire.
En roulant l'air.
C'est très bien imité.
Bref. Tu es complètement fada.
Je savais qu'Arnaud allait, voilà. C'était ça, tu es complètement fou, voilà. Personne ne va vouloir voir ce genre de film-là. Et du coup, le film a donc été tourné en Allemagne. Ouais. Il a passé 3 ans de sa vie à Munich. Et en fait, le film a été donc tourné avec des capitaux, notamment allemands. Et c'est la raison pour laquelle le film a eu le César du meilleur film étranger, ce qui est complètement paradoxal. C'est parce que les fonds n'étaient.
Oui,
voilà,
c'était.
Voilà.
Oui,
et donc voilà. Donc. C'est assez fou. Et
peuple plus austère, habitué.
Comment
les Allemands, c'est un peuple, on va dire, avec une culture un peu plus austère. Peut-être qu'ils étaient pas choqués de ce.
Alors, de ce que j'en ai compris de Jean-Jacques Hano, c'était plutôt de dire que, en fait, les producteurs français sont frileux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le sentiment qu'on avait. C'est-à-dire que dès que, en gros, il dit, lui, en France, ce qu'il nous expliquait, c'est que le système de production, c'est qu'ils veulent un truc qui marche, un truc qui a fait ses preuves et tout. Et là, le truc était un petit peu trop à côté, si tu veux. Voilà. Alors, peut-être que, par contre, derrière, tu as raison. Après, là, c'est une. l'a pas dit, mais peut-être que la volonté des producteurs allemands était peut-être dirigée par ce truc-là. C'est possible. Ça, je sais pas. En tout cas, donc voilà. En tout cas, le film et tout le résultat est.
Du coup, t'as dit tourné en Allemagne, mais c'est produit en Allemagne.
Excuse-moi, produit en Allemagne, parce que le film a été réalisé notamment à Rome, entre autres choses. Voilà, ça a été un des lieux de tournage. J'ai eu d'autres lieux de tournage, mais en tout cas.
Et la reconstitution, le studio de reconstitution, il était où lui?
Il était en Italie. Oui. Ouais, c'était en Italie. Et alors, évidemment, comme je vous disais, le résultat est tout sauf un monument d'ennui, contrairement à ce que pouvaient craindre nos producteurs français.
C'était pas un studio à proprement parler, parce qu'il est allé chercher une colline près de Rome, sur laquelle il a construit.
Oui, exactement.
Il a fait construire le décor.
Décor
reconstitué, il y a des intérieurs qui ont été tournés dans des habits. Alors là, pour le coup, j'ai pas les références, je suis désolé, mais dans d'autres pays, je dis une connerie, donc je préfère m'abstenir. Et voilà, en fait, tu as eu plusieurs ouais. lieux de tournage quand même. Mais par contre, le décor extérieur, c'est tout sur cette colline où effectivement il a repéré. C'est incroyable, quoi. Et enfin, bon, moi, je peux pas trop en dire après derrière parce qu'il faut voir le film, mais voilà, l'utilisation du décor et la façon dont le décor vit, voilà. Donc, je vous laisse découvrir le film après, mais j'en dirai pas plus sur ce point-là. Un des aspects passionnants du film, donc par ailleurs, en dehors de l'intrigue policière proprement parlée, tu parlais de polar, c'est exactement ça, c'est un polar à la Sherlock Holmes, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il se cache pas du tout des références, hein. Guillaume de Baskerville, Baker Street, etc. Le chien des Baskerville, enfin bref, on y est.
Il est seul, mais il a quand même
son disciple, etc. Le choix de Sean Connery, mais je vais y revenir après, parce que c'est pas. Bref, je vais y revenir justement sur ce point-là juste après. En tout cas, ce qui est intéressant en dehors de cet aspect polar, moi je trouve aussi, c'est cette confrontation qui est faite, qui est vraiment prégnante dans le film, entre l'approche quasi scientifique en fait de Guillaume de Baskerville, hein, et l'irrationalité complète dans lequel verse ses collègues face à l'inexplicable, ses collègues moines, hein, les personnes qui sont dans l'abbaye, du genre attends, ça c'est encore un coup du diable, hein, et je vois pas d'autre explication.
C'est ce que l'auteur critique dans le livre de base, voilà. C'est-à-dire qu'il veut vraiment accentuer sur l'irrationalité de la croyance,
même l'obscurantisme.
Les prémices du conspirationnisme, peut-être.
Oui, dans un certain sens. Oui, parce qu'en fait, tu expliques toujours tout par un biais, en fait. Ouais. Et alors, d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, cette opposition, elle va être poussée jusqu'à son paroxysme, avec évidemment l'intervention de l'Inquisition. Ouais. Et alors là, pour le coup, c'est assez génial, parce que ça rejoint un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en gros les méthodes d'interrogatoire, pour le moins un peu radicales, j'ai envie de dire, bon voilà, en fait permettent de justifier absolument tout. Mais c'est qu'en gros tu poses ta croyance.
Vous êtes quand même tous vachement précieux, hein.
Tu sais, pour les sorcières, on leur mettait une pierre autour du cou, on les jetait à l'eau, si elles flottaient, on pouvait les sauver. Si elles coulaient, c'était des sorcières.
Bah oui, mais en même temps un peu
comme les œufs, pour savoir s'ils sont bons ou pas.
C'est idiot parce que l'inverse aurait été plus réaliste.
Alors mais
vous êtes trop terre à terre.
Voilà. Après voilà, bref, en fait c'est donc leurs théories les plus fumeuses, donc c'était de cette manière qu'on pouvait les justifier. Donc moi j'ai trouvé cet aspect là dans le film, vraiment j'ai trouvé que c'était un aspect passionnant, vraiment passionnant du film. Voilà. Bon bref, tout ça c'est très très bien. Mais avec un casting 5 étoiles, j'ai envie de dire.
Tu parles pas de Christian.
Je vais venir. C'est encore mieux.
Mais
c'est
je vais pas flasher sur un gamin de 14 ans.
Il est horriblement laid dans ce.
Mais
film.
Je vais pas commencer par. Je vais pas commencer par Christian. On va y revenir après Christian. On va commencer quand même à tout seigneur tout honneur par Sean Connery quand même.
D'une beauté.
Parce que voilà. Parce que Sean Connery, on va le dire tout de suite.
Sean Connery.
Ouais. C'est vraiment l'acteur rêvé pour incarner ce moine franciscain. Exactement. Érudit et plein d'humour.
C'est un vieux Sean Connery pour le coup, qu'on a déjà vu avant, mais dans d'autres rôles qui n'étaient pas.
C'était pas James Bond. Hein.
Et il est tellement vieux, ce Sean Connery, que en fait, faut savoir que personne n'en voulait.
Ah ouais, c'est
mais
fou,
personne ne voulait de Sean Connery, qui était, comme tu dis, en fin de carrière.
Mais oui.
Faut savoir que, mais et non seulement personne, mais certainement pas Jean-Jacques Hano. mais qui ne voulait pas de Sean Connery. C'était hors de question. Ah. Et non seulement il n'en voulait pas, mais en plus de ça, Sean Connery, lui, voulait le rôle et il était revenu via son agent. Il était revenu à la charge une fois, deux fois, trois fois. Et à un moment, Jean-Jacques Hano de dire bon, bien sympa, mais.
Le chaudron, vous lui dites de partir.
Il n'a pas tenu ses propos, évidemment, mais c'est un peu genre bon, on va appeler la sécurité, quoi. Il va un peu nous lâcher, pépère, quand même.
Parce que lui, ce qu'il voulait, c'était Arnaud Borges, qu'il avait dans Marketing du Rire.
Arnaud Borges, il le voulait pour le sac de farine en figurant dans la cuisine, sur lequel s'adosse Christian Slater.
Pour se tripoter la nouille.
Bref, alors. Et alors, pourquoi. Pourquoi
maintenant que t'es plus son chef, il y a plus de respect.
Et alors, pourquoi.
J'avais pas fait le lien.
Et alors, pourquoi Jean-Jacques Hano ne voulait pas de Sean Connery? Eh bien. Et c'est pour les raisons qu'on vient d'indiquer.
James Bond.
Mais oui, mais parce qu'en fait, il disait, mais attendez,
marquer,
on connotait, en fait. Mais oui, on va pas rajouter du James Bond sur du Sherlock Holmes.
Bien sûr.
Puisque le film, c'est ça, en grosso modo, l'idée. C'est too much. Et alors, comment ça en y est arrivé? Vous allez voir, le truc, c'est ce que je trouve passionnant là aussi. En fait, à force d'insister, finalement, Sean Connery va finir tellement insister qu'à un moment, il va dire non, mais attends, dis-lui que je veux au moins lui faire une lecture. Ouais. Au moins qu'il me laisse lui faire une lecture. Et. Bon, à force d'insister,
Jean-Jacques Hano se pointe par surprise.
Évidemment, il se pointe et en fait, Jean-Jacques Hano, il est là, machin, il veut te faire la lecture et tout. Et Jean-Jacques Hano lui finit par dire, bon, écoute, allez, il vient faire son truc deux minutes.
Il me laisse tranquille.
Mais voilà, au moins on l'aura vu et voilà. Au moins je l'aurais vu et voilà. Il déboule et en fait d'ailleurs il parle à Jean-Jacques Hano, il lui dit, listen son, écoute fils, laisse-moi te faire le truc, laisse-moi te faire le machin, je fais chaque connerie.
Non, c'est nul.
Là je vais te faire le machin.
Je vais te faire le truc. Tu dis à Didouille, non?
Écoute, je vais te faire le truc.
C'est quelle position ça achète? Voilà.
Et donc, il prend le truc et lui fait la lecture. Et là, Jean-Jacques Hano de nous dire, il commence à lire le texte, et là, l'addiction. La rythmique, le personnage, le charisme. Et là, Jean-Jacques Hano se dit. Okay. Putain, mais c'est Guillaume de Baskerville en fait. Il a été mais retourné en.
Ah, c'est génial.
En rien de temps, hein. C'est vraiment ce qu'il nous a dit.
Et je crois que c'est ce qu'il avait manqué à Arnaud, le charisme. Aussi passé l'audition.
Détrompe-toi, j'avais mon permis chariste.
Alors, tu as raison. En fait, voilà, quand il a joué le sac de farine, Jean-Jacques nous disait mais plus d'émotion, Arnaud, plus d'émotion.
J'avais 13 ans en même temps à l'époque.
Farine complète.
Alors, vous allez voir.
C'est pour ça qu'il a pas voulu se retourner en fait.
Et alors c'est à la fois
avec le grand remplacement, bah, finalement ils ont trouvé un gars, ils m'ont mis un sac de farine à la place.
Ah, et en fait, si vous voulez, c'est là que ce qui est assez, alors terrible, oui et non, parce que finalement Jean-Jacques Hano a tenu sa conviction, enfin je veux dire a porté sa conviction jusqu'au bout. C'est que ok, Jean-Jacques Hano avait complètement, je dirais vraiment retourné, il était convaincu. Mais alors en plus on a pu voir le personnage de Jean-Jacques Hano. Hein, quand tu vois Jean-Jacques Hano, tu comprends que le monsieur a de la personnalité, et du caractère.
À mon avis, il est bélier, non? Jean-Jacques Hano.
C'est un festival.
Alors lui et les moutons.
Festival.
Tu restes dans ton domaine de prédilection.
Ouais, c'est ça. Bah oui. Encule un mouton.
Alors, comment rebondir là-dessus?
Sur la laine. Très doux.
C'est-à-dire que Jean-Jacques Hano, lui, donc, comme je vous disais, a été vraiment retourné par complètement convaincu par Sean Connery. Et vous allez voir le truc, c'est que, et là, c'est assez fort quand même, c'est que Jean-Jacques Hano débarque. Et il faut savoir un truc, c'est que le film coûte très cher. D'accord? Oui. Le film coûte super cher. Et vu qu'il coûte très cher, il faut bien que le film soit distribué partout. Et notamment sur où? Bah, sur le marché américain. Pourquoi? Parce que le marché américain, c'est potentiellement un public, c'est l'occasion de renflouer quand même le budget. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, il faut.
Et visiblement, du marché américain découle des marchés
anglophones, australiens, néo-zélandais, enfin, plein de choses. Exactement, exactement.
Gros
tout
côté
à fait.
Business quand même.
Il le dit d'ailleurs lui-même. Hein. Il dit voilà, il faut que ça fonctionne. Je peux avoir une ambition, une vision artistique, mais derrière, c'est des sous qu'on engage. Ouais. Et vous allez voir quand même, Jean-Jacques Hano, ça, le quelque part son...
Le roublard.
Non, ah, pas du tout. Ouais. Non. Son, peut-être qu'il l'est, mais en tout cas, non, je pense que c'est plutôt un personnage qui est droit dans ses bottes. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, il connaît très bien le directeur de la Columbia. Directeur de la Columbia qui s'apprête donc à distribuer. Il y a un deal qui est passé, un contrat qui. Alors, est-ce qu'il est signé ou s'apprête à être signé? Le contrat avec Sean Connery est signé d'ailleurs, je crois. Enfin, en tout cas, où on passe de l'aide, je me souviens plus bien. Quoi qu'il en soit, c'est Columbia qui va distribuer le film. Autant dire que là, on est sur un truc où il assure vraiment les arrières. Manifestement, c'est un super deal, quoi. Sauf que le choix de Sean Connery n'a pas du tout convaincu la Columbia. C'est-à-dire quand Jean-Jacques Hano débarque et dit ça va être Sean Connery, la Columbia, et le mec qui connaît, qui est un pote à lui, hein, qui lui dit attends, je t'arrête tout de suite, c'est hors de question. C'est hors de question.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Il dit acteur vieillissant, machin, attends, mais Sean Connery, mais tu déconnes ou quoi? Faut savoir quand même que Sean Connery, effectivement, c'était James Bond.
Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tourné.
Voilà. Oui. Et qu'il n'a pas encore réattaqué. Ouais. Bah, d'ailleurs,
c'est le moment de la bascule.
Il y a Highlander un an avant. Voilà, en 85, 86, Nous la Rose, Les Incorruptibles en 87.
Ouais. Mais Highlander n'était pas sorti au moment où ont lieu ces discussions.
C'est ça, exactement. Donc, t'es vraiment, c'est l'acteur has-been à ce moment-là. Il est vraiment dans ce creux de la vague. Et après, évidemment, il va remonter. Et après, il va jouer ses mentors, etc. La dernière croisée, Indiana Jones.
Ça a permis ça.
Carrément. Ouais. Ça l'a complètement mis devant la scène. Avec ce nouveau personnage, Sean Connery était ce nouvel acteur. Il était, Reborn. Enfin, je veux dire, c'est vraiment c'est une renaissance pour lui. Et donc, la Columbia lui dit clairement, bah écoute, c'est simple, non, tu changes d'acteur, sinon tu n'as pas le deal aux États-Unis. Et Jean-Jacques Hano a dit, fuck quoi. C'est Sean Connery. Je trouve ça génial.
Une fois qu'il avait quand même.
Ah, il avait sa conviction faite, il dit, je ne vois pas d'autre acteur que Sean Connery, et ce sera Sean Connery, et tant pis pour le deal américain. Et là, Jean-Jacques Hano nous a dit, faut vous imaginer le truc quand même, hein. C'est qu'il y a des millions de jeux. Enfin, moi je dis chapeau, parce que tu sais, il faut quand même avoir des coronets là.
Quel grand seigneur, Hano.
D'autant. Oh.
Je n'ai pas osé la faire tout à l'heure, ça, tu vois, c'est marrant.
J'allais dire un truc sérieux.
vas-y, Christelle, vas-y.
Non, mais d'autant, alors, il faudrait que je puisse revérifier, mais dans mon souvenir, dans le livre. De Baskerville est pas aussi vieux que Sean Connery l'est physiquement.
Il est dans la soixantaine à ce moment-là, en plus, Sean Connery.
Je pense qu'il n'est pas, mais je revérifierai. D'accord. Parce que ce serait intéressant de voir qu'il y a aussi cette justification de dire oui, mais non, il est vieillissant et en plus le rôle ne le demande pas forcément.
Ne demande pas forcément. Alors, ça, c'est une chose, parce qu'attendez, donc il y a le deuxième effet qui se coule. Bah, évidemment, et ça peut être rejoindre ce que tu dis. Évidemment, la Columbia, donc le deal est annulé. Ça veut dire qu'il ne peut plus compter que sur son marché européen, notamment, enfin, et peut-être asiatique. D'ailleurs, je connais pas bien après mais en tout cas, le périmètre se restreint violemment. Et puis il y a un autre personnage quand même. Il y a une autre personne qui est quand même le premier concerné par le choix de Sean Connery. C'est l'auteur, c'est Umberto Eco. C'est-à-dire, et alors, attendez, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il sent déjà que Jean-Jacques Hano déboule.
Il est toujours en vie. Donc c'est quand même,
Et elle lui dit, écoute, Umberto, voilà tout ça. Écoute, le film, machin, ce sera Sean Connery. Et là, c'est le drame, hein. C'est le méga drame, parce qu'alors là, pour le coup, parce qu'évidemment, là, nous, on a en tête Sean Connery, vieillissant machin et tout. Il faut vraiment voir.
C'est comme ça qu'il le voyait.
Une fois que l'histoire est écrite, c'est plus facile de refaire.
Eh oui, c'est Sean Connery, c'est James Bond, quoi. Ouais. Et là, Umberto Eco lui fait, alors comme il nous explique ça, dans le drame italien,
Vas-y, Arnaud, fais-nous.
Magnifique Umberto Eco, merci Arnaud.
Maquet Jean-Jacques.
Et donc, il se tourne vers sa femme aussi, pareil, mais qu'est-ce qu'il nous fait, machin,
fais-nous
et tout ça.
Fais-nous sa femme.
C'est juste incroyable.
C'est juste brillant. On en verra les extraits à Jean-Jacques. Allô. Bref, en tout cas, c'est ce que je trouve complètement assez fort. Umberto Eco. Alors Umberto Eco qui en fait est littéralement effondré, catastrophé, et qui une fois qu'il voit le film, parce qu'il va voir le film prévisionnage, va revoir et va dire à Jean-Luc Hano, mais ce choix était juste parfait.
Il rencontre Umberto Eco rencontre Sean Connery. Enfin, Hano organise une rencontre entre les deux et Umberto Eco ressort et lui dit non, t'as raison, il est très compétent en football.
Voilà. T'as raison, carrément. Cette anecdote est telle parce que tu vois déjà le truc où le mec il se dit putain, et l'autre il est en train de planter mon bouquin. Ouais. Alors après Jean-Jacques Hano, on déborde un peu, mais comment on discute. Jean-Jacques Hano, il a
tes règles, vas-y.
Il a une anecdote intéressante, c'est que par rapport à ça, c'est sur l'adaptation adaptation. Il y a eu un débat très intéressant dans la salle où à un moment il disait, attendez, je vais remettre les choses, comment dirais-je, un film n'est pas le livre, c'est une adaptation. C'est comme une sculpture n'est pas le film. Vous faites une sculpture qui représente le livre. Bon ben voilà. Sinon, et comme il dit, elle a dit notamment au spectateur qui l'a interrogé, et puis surtout il lui a dit, écoutez, un peu de manière un peu, parce qu'il donne toujours un petit côté un peu agacé de dire, écoutez, si vous êtes monsieur qui me posait la question, que vous faites, vous voulez le film, et ben vous allez filmer les pages du bouquin, d'accord, et puis ben voilà, vous aurez votre film parfait, ce sera l'adaptation du film fidèle. Enfin, c'était assez rigolo.
C'est mais toujours l'éternelle question de l'adaptation d'un livre en film.
Exactement.
C'est une lecture, c'est une autre œuvre.
Il le défend. Et d'ailleurs, il dit aussi, et là, je ne vais pas déflorer le film non plus, mais à un moment, il révèle un aspect de l'intrigue qui est la relation entre le jeune Hatsu, le jeune novice, et la villageoise, où en fait, manifestement, dans le livre, la villageoise, alors j'ai pas lu le livre, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il l'oublie en fait. C'est ce
qu'il dit devant, alors que dans le film,
il en fait son. C'est un moment. Je vais rien dire, mais c'est un pilier central du film. Voilà, j'irai pas plus loin.
Pas déflorer.
Salut toi. Non, j'ai voilà.
Le film que tu parles.
Non, tu vas te calmer.
Bref. Voilà, donc ça c'était. J'ai fait un gros aparté sur.
T'as fait 12 minutes sur une page.
Voilà, mais évidemment, il y a d'autres acteurs. Il y a Ron Perlman. Oui. Ron Perlman qui joue le rôle de Salvatore, le simple des polyglottes.
En voilà un bien moche.
Et d'ailleurs, il viendra.
Je reviens un petit peu en arrière. Tu n'as pas dit comment il a fait. Enfin, il ne s'est pas associé aux Américains. Il a quand même fait son film sans l'association des productions américaines.
Exactement.
D'accord.
Il est allé direct.
Les capitaux sont allés.
Ah ouais. Il a.
Je pensais qu'il y avait un rebondissement.
Non. Il a suivi sa ligne.
D'accord.
Donc, pour revenir sur Ron Perlman, donc acteur qui n'était pas connu à l'époque. Enfin, ou très peu. Il avait joué. Il avait joué dans La Guerre du Feu. C'était son rôle principal en 81. Mais sinon, je ne vais pas raconter toutes les anecdotes parce que ça va m'amener très très loin. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que Ron Perlman est devenu un acteur reconnu par la suite.
Hellboy,
Hellboy, Pacific Rim, Blade 2, Alien 4, la Cité des Enfants Perdus, j'en passe, c'est des meilleurs. Juste un truc, c'est que Jean-Jacques Hano, parce que c'est important de le dire, et vous allez voir pour la suite, c'est que Jean-Jacques Hano nous l'a dit dans la salle, il dit c'est un acteur d'une gentillesse, avec une joie permanente. C'est une personne qui portait une joie permanente. Dès qu'il arrivait sur un plateau, il apportait la lumière avec lui. Les gens l'adoraient. Ce qui n'est pas le cas d'un autre acteur.
Oui, voilà.
Ce qui n'est pas clair, et vous allez voir le truc, ce qui n'est pas le cas d'un autre acteur, F. Murray Abraham. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est ou ne se rappellent pas, c'était Salieri dans Amadeus. Juste pour vous remettre.
C'était déjà un gros con dans le film.
Voilà, mais c'était
pas
un personnage.
Film,
mais alors, tu vas voir, c'est rigolo que tu dises ça, là encore, parce que c'est marrant, ça va faire écho. Alors,
Umberto écho.
Oh, yeah. T'es un super fan toi aujourd'hui.
Non, Freddy.
Alors, évidemment.
Ah ben, Nico l'a dit avant moi.
Non, c'est pas vrai.
F. Murray Abraham qui joue ici le rôle de Bernardo Gouy, le terrible inquisiteur.
Bernardo Gouy, le terrible inquisiteur.
Et alors là, pour le coup, je peux vous dire, Jean-Jacques Hano a été particulièrement virulent à l'égard de cet acteur.
Connard, comme il a dit.
Ah oui, vous allez voir. Alors, ce qui se passe, c'est que, là, je vais être assez court là-dessus, c'est que lors de l'échange qu'il y a eu avec.
Assez court là-dessus. Pourquoi ça nous fait rire?
Lors de l'échange avec le public, il a été interrompu par un spectateur qui ne voulait pas écouter ce qu'il était en train de dire, l'a coupé, mais vraiment coupé, et lui a posé une question qui n'avait plus rien à voir.
C'était dommage.
Et c'était extrêmement frustrant parce qu'après, la discussion est partie sur autre chose complètement, mais sur rien à voir. Il aurait pu, et même d'ailleurs, Jean-Jacques Hano voulait vite finir ce qu'il avait à dire, il ne l'a pas laissé finir alors que c'était patient. Du coup. Je vais me référer à une interview qu'il a donnée, dans le numéro de février de Manouvise, où il s'est étalé de manière assez gratinée sur l'acteur. Je résiste pas. En gros, il déclare clairement qu'il est le seul acteur qu'il ait détesté de toute sa vie. Ah, il le décrit comme monstrueusement désagréable, totalement égocentrique et imbu de lui-même. Et il raconte une anecdote rigolote qu'il a d'ailleurs eu le temps de raconter avant qu'il soit interrompu. Une anecdote rigolote qu'il a racontée. Il appelle Milos Forman. Forman, Miloš Forman Miloš, d'ailleurs, qui a réalisé Amadeus. Et il l'appelle et lui dit dans mon casting, j'envisage F. Murray Abraham dans le rôle. J'envisage F. Murray Abraham. Et alors, Arnaud, s'il te plaît, tu prends Miloš Forman, s'il te plaît, avec sa grosse voix, quel rôle?
Bien sûr.
Il lui demande, alors Miloš Forman lui demande
quel rôle?
Quel rôle? Un inquisiteur.
C'est Lagerfeld.
J'essaye de me souvenir ce qu'il a dit.
Miloš Forman lui demande est-ce que c'est un gars très méchant?
Est-ce que le gars sera très méchant?
Oui, il est très méchant. Et alors Miloš Forman lui répond: alors tu n'as même pas à le diriger.
Exactement.
Alors tu n'as même pas à le diriger.
Mais il l'a pris quand même.
Et il l'a pris.
Ouais, moi je trouve ça dingue.
Il l'a pris.
Prendre un connard.
Et de fait, avoir un connard.
Voilà.
C'est mieux qu'un connard.
Et alors ces festivals, le gars arrive systématiquement en retard sur le plateau. Il arrive systématiquement en retard. Et comme il lui a un Oscar.
C'est un scandale.
Je
te jure que s'il y avait un mec qui arrive en retard, l'anthropode. Systématiquement.
Il méprisait le travail de tout le monde.
Un autre connard.
Et comme il a eu un Oscar, il considérait que Sean Connery, qui n'avait pas eu d'Oscar, et ben il devait l'attendre, quoi, tout simplement. Et en fait, enfin voilà, donc c'est un type qui impose ses trucs. Comme je vous dis, il méprisait le travail de tout le monde. Il faisait exprès de recommencer les scènes en plein milieu, c'est-à-dire en coupant la parole à ses partenaires pour les déstabiliser. Tous les acteurs présents, y compris tous les acteurs présents sur le plateau, ont signé une pétition pour le faire virer de la Screen Actors Guild. En fait, Dixit Jean-Jacques Hano, c'était à peine croyable tellement c'est excessif. Et il a même dit à Jean-Jacques Hano lors de leur première rencontre: vous les metteurs en scène, vous êtes tous des connards et je vous méprise.
Ah, bah,
voilà.
Oh, ça pose le décor.
Ça vous pose les décors. Pour la petite truc, je suis quand même allé voir une interview de F. Murray Abraham tellement ça me paraissait énorme. Ouais. Et je suis allé un peu au-delà du film, je suis allé voir des interviews sur YouTube pour me dire
est-ce
que le gars. Et alors là, tu vois une interview la plus récente qui était en 2023 parce qu'il joue dans une série Apple TV, I Wait Lotus, qui est sortie là récemment.
Et, deuxième saison de White Lotus.
Et alors il disait à l'époque, alors je sais pas comment est le gars aujourd'hui, mais le gars en fait le gars explique en fait qu'il était vraiment extrêmement arrogant et qu'il pensait que c'était normal d'être arrogant comme ça et qu'il pensait qu'il allait réussir avec ça, etc. Sauf que Sean Connery lui a eu un Oscar après. Sean Connery a une carrière qui avec des films que
donc il regrette cette attitude
il la regrette devant les caméras, mais après tu sais jamais, tu disais
qu'il avait eu un prix Murel.
Il a eu l'Oscar du meilleur second rôle pour Salieri dans Amadeus en 84,
pas pour le Nom de la Rose. Je comprends plus rien.
Je vais aller très très vite.
C'est pas toujours très clair, je suis désolé.
Moi, parler de Christian Slater, je peux pas ne pas évoquer Christian Slater. Petit nouveau de 14 ans lors du casting. Il avait 15 ans quand il a fait le film. 15 ans. Ouais. 15 ans. Et alors, sur le tournage.
I'm Christian Slater.
Alors, il faisait ses débuts, et quel début, notamment dans une scène mémorable dans une cuisine avec la jeune et très belle Valentina Vargas. Pourquoi je vous parle de Christian Slater? Parce que si vous avez vu la scène, elle est quand même assez explicite, cette scène, vraiment. Et quand je l'ai revue, je ne me souvenais pas à quel point elle l'était. Et en fait, c'était la première fois que Christian
Slater.
J'ai eu une demi-molle, j'avoue.
C'est bien ton âge.
Voilà. Et en fait, Christian Slater qui tombe littéralement amoureux de sa partenaire dès la première lecture faite ensemble. À tel point que. Oui, il est tombé amoureux d'elle. Elle avait 23 ans. Il avait 15 ans. Et autant vous dire, Jean-Jacques Hano raconte que l'acteur dormait littéralement au pied de sa caravane. Il était le fou amoureux. Que les mecs de l'équipe lui amenaient même des couvertures parce qu'il voulait pas qu'il attrape froid.
Marius, ça fait ça avec la nette.
Voilà. Et quand on revoit la scène d'amour, qui est encore une fois, qui est vraiment une scène, et ben moi je me dis waouh, parce que le gamin il avait 15 ans.
On a juste pas l'impression qu'il joue, quoi.
Aujourd'hui, autre temps, autre mœurs, parce que moi je suis pas sûr que ce soit faisable aujourd'hui en 2023 sur une production de cette envergure. En tout cas, bien que bref, l'alchimie fonctionne entre les deux personnages à merveille à l'écran, et comme je vous disais, va être un des ressorts importants du film, en tout cas plus que le film originel. Et moi je trouve que ça donne une dimension encore plus forte et émotionnelle à l'histoire, notamment lors de la dernière scène du film. Bref, il y aurait plein de choses à raconter sur les décors incroyables de la bibliothèque qui sont inspirés des escaliers d'Escher, sur la magnifique photographie du film, sur le soin porté aux détails historiques. Je vais passer la statue Renaissance, mais qui est peut-être le détail qui est
le mauvais détail.
Oui, ben Jean-Jacques Hano l'avait vu lors du tournage. En gros, c'est une histoire de drapé. M'en demandez pas plus. Il y avait plus quand une statue Renaissance, il y a plus de drapé que dans l'art qui précède de l'époque. Et bien en fait, il l'avait vu et les mecs lui disent personne va le voir. Tu nous fais chier, ça nous a coûté une fortune de reproduire ce truc-là. On y va comme ça. Et il s'est laissé convaincre à cause du coup. Vous manquez première diffusion à Marseille, première projection du film à Marseille. Les mecs sortent et disent attends, mais c'est quoi ta connerie là? Tu nous parles d'un film historique et ton truc c'est une statue Renaissance. Ça l'a poursuivi, on lui reprochait beaucoup de détails pendant très longtemps. Voilà, j'en ai fini. Moi, ce que je peux juste vous dire, c'est il faut savoir s'arrêter. J'ai dépassé, j'ai explosé mon timing d'habitude.
Mais
je suis
on
plus
est
court.
Là entre
c'est
eux.
Un vrai bonheur de revoir ce film sur l'écran, sur l'écran de la salle numéro 1 de l'Omnia, dans des conditions parfaites.
Ça devait être génial.
C'était formidable.
Si vous avez l'occasion,
oui, exactement.
Et l'après-midi pour les enfants.
Ouais, tout à fait. Pour n'hésitez pas à découvrir, redécouvrir ce film qui n'a pas pris une ride et qui reste toujours aussi passionnant, presque 40 ans.
Et en VO. Moi, je l'avais jamais vu en VO.
Franchement, la qualité de la restauration fait que t'as pas l'impression de voir.
Franchement, la voix de Sean Connery, ça change quand même.
Évidemment.
Oh là, c'est hallucinant.
Voilà, merci pour votre attention.
Super,
merci.
Comme toujours.
Moi, c'est un film que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai vu il y a 2 ou 3 ans. Et en fait, je l'avais vu. Je crois que c'est un de nos auditeurs et aussi podcasteur Hervé Quaral qui m'avait recommandé. Enfin, pas moi personnellement, juste dans un des trucs, il avait recommandé de voir le making of. Vous pouvez le regarder sur YouTube. Je viens de vérifier, c'est sur YouTube, ça s'appelle Le nom de la rose, le making of. Ça dure 1h54.
Ouais, super.
Et on revoit justement tous les détails. Il y a Jean-Jacques Hano qui a interviewé, on a tout ce qui est lié autour du bouquin d'Aristote, comment c'est la poétique, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Enfin, l'autre qui était sur
la poétique.
Oui, mais il y a la poétique, mais il y a l'autre qui est la comédie. Enfin, voilà. Et en fait, on vous explique tout le contexte. On voit des images un petit peu d'archives, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont tournées, donc 1h50.
Et moi, j'ai aussi créé un bouquin qui s'appelait Comment lutter contre l'éthique aussi, et je me souviens. C'est nul ça, j'arrête. Hein.
Mais je vous invite à regarder ce truc-là si vous avez aimé le film. C'est vraiment bien. Alors, moi, je l'ai vu avant de voir le film.
D'accord.
Ce qui fait que.
Ça t'a spoilé un peu des choses.
Ouais, alors ça me dérange pas, mais j'ai comme quand tu me racontes un film, je trouve que c'est toujours plus intéressant de t'écouter, de le en parler que de le voir après. Mais bon, ça, c'est parce que j'ai un rapport particulier au film. J'adore entendre parler des coulisses, etc. Et après, je suis toujours un peu déçu parce que je me suis fait des images mentales. Voilà.
Ah, bah oui.
Parce qu'il faudrait que tu l'écoutes après sa chronique.
Mais c'est ça.
Mais oui.
Mais bon, voilà, c'est l'idée. Mais en tout cas, je vous invite à retrouver. C'est sur YouTube. On le mettra peut-être dans le billet de l'épisode pour avoir ces compléments d'informations. Si vous voulez le regarder, ça dure 1h54.
Ouais, carrément.
Comme la chronique de.
C'est ça qui est dingue en fait, c'est dingue. Alors qu'il a pas tout dit. C'est pas comment il s'est débrouillé.
Je crois que je l'ai vu méga jeune.
Oui.
Pareil, c'était passé sur TF1. Ouais, ouais. J'ai vu ça avec mes parents. Je devais avoir 12 ans. Et j'avais trouvé ça déjà super. Et j'ai lu le livre bien plus tardivement pour mes études en fait.
Par contre, je sais pas comment est le bouquin, mais moi je me souvenais pas que le film était aussi drôle. Enfin,
il y
a un côté décalé.
C'est
pas décalé, mais plus vous reculez sur plein de choses.
Très drôle.
Voilà, et ben écoutez, à mon tour, on va rester dans un domaine qui se rapproche un peu de Ludo d'ailleurs, comme quoi il y a un fil conducteur presque sans le vouloir, mais avant ça, un jingle.
Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors touche à ton cul. Daco, daco, chabou, tadouti.
Alors, quand je disais que j'allais être un peu dans la continuité de Ludo, vous allez voir pourquoi. Alors que je vais parler d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo qui s'appelle Immortality. Et ça va pas être très très simple de parler de ce jeu parce que je risque de dévoiler des choses qui pourraient nuire à l'expérience, parce que c'est vraiment un jeu vidéo qui est une expérience. Ce jeu vidéo, il a été créé par Sam Barlow. Sam Barlow, c'est un auteur de jeux vidéo, enfin un créateur de jeux vidéo qu'on peut considérer comme un auteur, la différence entre certains réalisateurs de studio et quelqu'un qui va faire quelque chose un petit peu je dirais comme un orfèvre. Monsieur Sam Barlow, il a commencé par il a travaillé notamment sur des franchises comme notamment Silent Hill. Je sais pas si vous connaissez le jeu vidéo Silent Hill.
De nom.
Et il a travaillé sur une version de Silent Hill qui s'appelle Shattered Memories. Donc c'est un jeu qui avait déjà fait un peu un pas de côté à l'époque. Il est sorti en 2009. Il avait travaillé sur cet opus qui explorait les méandres de l'esprit humain et l'importance des souvenirs. C'est-à-dire qu'au-delà du côté un peu horrifique qu'on peut avoir dans ce type de oppressant, etc., il y avait aussi une notion de comment est-ce qu'on peut se fier vraiment à ses souvenirs, etc. Enfin, il y avait tout un sujet qui se faisait notamment dans le salon du psy où il se reposait la question de est-ce que s'il avait vraiment vécu ces choses-là, etc. Donc ça, c'était un sujet important qu'il avait commencé à aborder en 2009. Puis en 2015, il a fait un jeu qui s'appelait Her Story, qui explorait le pouvoir des images sous forme de séquences vidéo, qui faisait réaliser la duperie qu'elle pouvait provoquer selon l'ordre dans lequel on pouvait les regarder. Effectivement, enfin, on en parlait avec Freddy sur les fake news, sur les choses comme ça. Finalement, le pouvoir de l'image ou du son peut, en fonction de comment on le travaille, donner une vérité qui peut être tout à fait relative. Et en 2019, il avait fait un jeu qui s'appelait Telling Lies. qui faisait reconstituer le parcours d'un homme en jouant avec notre empathie, puisque le protagoniste passait de tour à tour du sympathique père de famille à ordure manipulatrice au gré de nos découvertes
comme
et des révélations du jeu.
Ordure manipulatrice. Bam. Ça lui va bien, je
trouve.
Ordure manipulatrice.
Et donc, dans Immortality, son dernier jeu en date, on retrouve quelques-unes de ses obsessions qu'on a pu voir. Les jeux de miroir entre les personnages, les faux semblants, les portraits en creux de personnages qui sont absentes du discours, etc. Donc, mais de quoi s'agit-il finalement, Immortality, après vous avoir présenté ce décor? C'est une enquête au cœur du cinéma. Donc, je reviens sur le sujet de Ludo. Justement, les coulisses du cinéma, moi, ce que j'aime beaucoup dans les coulisses du cinéma, c'est une investigation interactive. Alors, l'histoire, Immortality, ça raconte l'histoire de Marissa Marcel, une jeune actrice prometteuse, mannequin repérée dans une publicité pour du savon, qui a débuté sa carrière à la fin. Ouais, en fait, c'est ça. À part d'un sujet tout bête. C'est un peu, vous regardez les pubs à la télé, puis il y en a une qui dénote, et puis quelqu'un l'a dit, lui dit, tu vas devenir la future égérie de quelque chose, ou même une future actrice. Et hop, elle se retrouve propulsée.
Et il y a Benoît Jacquot
à la fin des années 60. Alors, pas tout à fait, mais il y a des sujets un peu touchy quand même. On va revenir après. Et donc, à la fin des années 60, elle commence à faire sa carrière. Et cette carrière va s'achever avec sa disparition inexpliquée peu avant l'an 2000, laissant pour seule trace les archives de films qui n'ont jamais été diffusées au grand public. Donc on retrace 3 décennies de films à travers ce jeu. Alors comment ça se joue? Alors pour pas vous mentir, déstabilisant.
Comment ça se joue?
Alors je vais te dire ça. C'est un peu déstabilisant au premier abord. Moi j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour me lancer, parce qu'au début il y a un petit côté un peu austère, un peu difficile. Je savais pas comment appréhender le sujet. Puis un jour je m'y suis lancé et j'ai pas arrêté pendant plusieurs soirées.
C'est un ordi, c'est sur.
Je vais te dire tout ça à la fin. Tu vas voir, parce qu'il y a une petite surprise à la toute fin. Alors le joueur, nous, est en possession d'une grande quantité de bobines, et on navigue de séquence en séquence, de rush en making off, pour déterminer les différentes problématiques qui peuvent amener à la disparition de cette actrice. Toutes les productions dans lesquelles elle a joué, mais qui ne sont jamais sorties en salle. Donc en fait, on manipule des bobines à la manière d'un réalisateur, d'un monteur. En fait, on a des bobines qui sont séquencées. Et puis, on est amené à lire, rembobiner, passer en accéléré, etc., pour arriver à identifier des éléments dans le décor, des éléments notables dans le champ, qui peuvent faire créer un lien entre des vidéos qui, a priori, n'ont pas de lien entre elles. Donc voilà, on a tout un tas de sujets qui s'offrent à nous, on a beaucoup de matière. Et donc, en sélectionnant par exemple un assistant qui procède à un clap de fin sur une bande, on clique sur le clap de fin et puis ça nous renvoie à une autre séquence sur laquelle on a le même assistant qui est dans une autre séquence. Et on se dit, et en fait, de proche en proche, tout ça, c'est un espèce de labyrinthe qui se dévoile devant nous, en fait. Chaque chose ramène à un autre sujet, etc., etc.
Mais je crois que je suis trop con.
Tu n'as pas d'indices?
Non, je pense pas.
Des indices visuels.
Je me disais la même chose.
Il y a quelques indices visuels et sonores qui peuvent nous aider à identifier des choses. Déjà, on a un petit curseur qui, quand on passe sur certains éléments du décor, on a un petit œil qui se focalise, qui fait que là, on sait que c'est un élément activable et qui. Mais du coup, au début, on a que 3 séquences.
Ah oui.
Et puis, au bout d'un moment, on a une séquence qui devient énorme, et on a un arbre des possibles qui devient fou, et on renavigue dans les sujets, etc.
Oui, parce que si tu cliques sur un élément, t'envoies sur un autre élément.
Et tout peut être un élément cliquable, ça peut être une chaise, ça peut être un verre d'eau, ça peut être une flûte de champagne, ça peut être plein un personnage.
Et ça peut être une fausse route aussi.
Et des fois, on a des séquences où on se dit, je vois pas trop ce que ça m'a apporté.
D'accord.
Et puis au premier abord, on voit pas trop ce que ça nous a apporté. Puis en fait, en creusant un peu, sans trop en dévoiler pour pas trop.
Et tu prends des notes quand tu joues
Faut être concentré, par contre. Et donc voilà, ces sujets-là, on se retrouve à avoir une approche très. On se retrouve à être un inspecteur, en fait, pour revenir aussi sur Baskerville, etc. Voilà. Et de cette manière, petit à petit, le joueur va découvrir avec des nouveaux extraits ce qui peut démêler la vie mouvementée de cette Marissa Marcel. Alors, plusieurs possibilités s'offrent au joueur. Donc, la possibilité de se promener dans les éléments du décor ou de visionner chaque séquence dans son intégralité en disant, je vais avoir vu cette période-là et toute cette séquence-là. Mmh. Et puis, peut-être que c'est dans les mots qui vont être dit que ça va être important, ou peut-être que ça va être dans les éléments qu'on va voir.
Mais c'est
combien d'heures de jeu?
C'est une dizaine d'heures, c'est pas tant que ça.
D'accord.
Et comment on sait qu'on a gagné?
T'as une fin.
Elle est morte.
T'as une fin.
T'as le boss de fin.
Je vous dis pas à la fin. À la fin, tu un kamehameha, puis c'est bon, il est perdu. Et donc, certaines scènes ne durent que quelques secondes, donc faut voir ce qu'il y a comme information ou pas dans cette. Quand d'autres durent plusieurs minutes. Et à chaque fois, moi, ce que je trouve assez dingue, c'est ce qu'on voit derrière, en fait, c'est justement les coulisses du cinéma, les répétitions, etc. Donc, on a 3 extraits, on a des extraits en lien avec 3 films de 3 décennies différentes. Les extraits peuvent être des scènes de tournage, des répétitions, des discussions entre deux portes, du hors-champ pendant que la caméra continue de tourner, etc. C'est du fan footage un petit peu, hein, d'une certaine manière.
C'est filmé en prise réelle.
Des vrais gens ou c'est
exactement.
Des images
Exactement. Je l'avais pas encore dit, mais voilà, la chose qui est intéressante, c'est que c'est pas du jeu vidéo, c'est du tournage.
Ah là là, génial.
C'est que des gens qui sont des vrais acteurs. Marissa Marseille, c'est Manon Gage, qui est une actrice, qui a prêté son visage, son corps, sa voix et tout ça à cette personne. Et en fait, tout ça, c'est des scènes qui ont été jouées pour faire penser que ce sont des vrais éléments de la vraie vie du décor, des vrais acteurs qui ont existé entre 1960 et 1999. Quoi.
Donc et c'est un film jeu.
C'est un film jeu. Voilà.
Oh, c'est génial.
Donc, comme je vous disais, on retrouve donc des interviews, des making-of, des répétitions, des publicités, des screen tests, etc. Quand ils répètent, et tout ce qu'on retrouve, des lectures, hein, un peu en mode Sean Connery qui présente. Alors là, ils sont tous là autour d'une table à faire de la lecture du truc pour voir. Alors à ce moment-là, ça veut dire que tu fais ça. Là, ça veut dire que tu dois sentir telle tension. Enfin, voilà, on voit ce truc-là et on se dit, c'est un objet filmique en tant que tel déjà. Enfin, moi, ça me
c'est
je trouve que c'est un côté hyper séduisant, déjà rien que ça. Et donc, comme je vous disais, aucun de ces films n'est jamais sorti. On a des bobines de films qui auraient pu être des grands succès, mais va savoir pourquoi, ils ne sont jamais sortis en salle. Enfin, va savoir pourquoi, c'est l'une des intrigues du jeu. Le premier film, c'est Ambrosio, qui fait penser un peu au nom de la rose. Ambrosio, qui a été achevé en 1968, qui est réalisé par une sorte de... un petit peu quelqu'un qui se voudrait un sous Hitchcock, qui voudrait faire un peu une intrigue, un peu Hitchcock, Jean-Jacques Hano, voilà, dans un monastère
incroyable.
Au XVIIIe siècle, une femme qui se fait passer pour moine, pour rentrer dans le monastère, etc. Et puis on se rend compte qu'il y a d'autres choses. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu que ça soit des meurtres, etc., c'est plutôt des approches un peu libidineuses, nanardesques, qu'on va retrouver derrière. Donc c'est plutôt sympa, mais c'est le premier film dans lequel elle a joué. Le deuxième film, c'est Minsky. Donc là, on est plutôt dans le côté polar, c'est dans les années 70. Un thriller où elle joue la muse d'un artiste qu'elle est suspectée d'avoir assassiné et qui voit toute son intrigue se déployer dans le milieu de l'art new-yorkais. Ça, il y a un petit côté nouvelle vague avec des touches qui font rappeler un peu Kubrick de temps en temps. Voilà, le côté un peu particulier qu'on peut retrouver, les petites marottes de Kubrick. Et le dernier, Two of Everything, de 1999, où là, elle incarne une pop star à succès qui entretient un rapport particulier avec sa doublure. Justement, qui est qui? Je vous parlais tout à l'heure des jeux de miroir, des choses comme ça. Et donc cette actrice là on la voit tout au long de ces trois décennies dans trois univers différents à travers ces univers là
et le rendu du coup c'est on voit des extraits de films ou pas?
Je vais y venir. D'accord. Justement, alors il y a des bouts, oui, il y a des bouts de, enfin non, il y a pas des, il y a pas du rendu final, c'est que du shot de, mais on voit justement, je vais y venir au fur et à mesure. Donc un truc tout bête, donc je vous disais, le gameplay donc c'est la manière de jouer, hein, l'expérience de jeu, ça repose sur un principe simple: on peut rembobiner des scènes, on peut découper, on peut avancer, etc. D'ailleurs, quand les scènes sont rembobinées, ça fait un peu penser, vous savez, à la loge dans Twin Peaks avec les personnages qui sont ça. Donc il y a ce côté un peu dérangeant
avec la voix venir.
Et d'ailleurs, c'est pas complètement par hasard si ça fait penser à Twin Peaks, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui rappellent un petit peu un univers de David Lynch.
Arnaud imite très très bien les voix qui sont jouées à l'envers. Arnaud, s'il te plaît. Mais il est fou.
Donc là-dessus, encore une fois, en termes de gameplay, il n'y a pas de dextérité à avoir. C'est pas des composition de boutons à devoir activer rapidement, etc.
C'est un
bouton, tu vas voir, je vais te dire. Et donc en termes d'ambiance, comme je vous disais, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est que c'est un jeu en FMV pour Full Motion Video. Donc c'est du jeu avec des vidéos préenregistrées qui sont tournées avec des vrais acteurs dans des vrais décors.
D'accord. Okay.
Et donc on est vraiment dans des vrais décors qui peuvent être les décors dans lesquels ça devait se tourner, comme des décors des coulisses, comme la chambre d'hôtel dans laquelle ils sont en train de répéter une scène, etc., etc.
Il y avait un précédent à ça? Ou...
comme ça, moi j'en ai jamais connu de jeu comme ça, en fait, vraiment avec cette approche là en termes d'expérience de jeu. Ce qui est impressionnant, c'est la technique de réalisation. On a des plans qui sont magnifiques, c'est à dire que c'est vraiment un jeu vidéo mais qui est tourné comme un film, quoi, d'une certaine manière. Une mise en scène qui est incroyable et qui est sublimée pour moi par l'interprétation des acteurs. La mise en scène est très intéressante, c'est à dire qu'on commence par une interview de Marissa sur un plateau de TV de type Late Show dans les années 60, où elle présente Ambrosio, justement le film dans lequel elle va jouer. Donc on a l'acteur, le réalisateur, mince, le présentateur qui lui pose des questions, etc. Et puis on retrouve ce même plateau avec ce même présentateur quelques années plus tard, mais c'est plus Marissa qu'on a en face de nous, c'est le réalisateur d'un autre film dans lequel elle a tourné. Et on commence à comprendre qu'il s'est passé quelque chose entre ces deux scènes là en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est tout ça qu'on commence à démêler au fur et à mesure, en tirant la bobine, en tirant le fil. C'est quelque chose de très très intéressant par rapport à ça, parce que notre cerveau il fait des liens, puis des fois on se dit mince, je me suis complètement planté, tac tac tac, et ça repart dans un autre sens. En termes de réalisation, on a des mouvements de caméra, on a de la lumière, on a de la composition de décor que je trouve incroyable parce que vraiment on a une fidélité par rapport aux époques respectives. Du premier coup d'œil, on sait dans quelle décennie on est. Là, on est en 1960. Là, on est en 70. Là, on est des années 90 parce que les costumes sont différents, parce que les décors sont différents, parce que la colorimétrie est différente, parce que la façon de filmer est différente, etc., etc. Donc il y a tout ce soin au détail qui est apporté dans le sujet. On voit les acteurs qui prennent de l'âge au fil des périodes. Je vous disais, le réalisateur, on voit que c'est le même présentateur, mais il est grisonnant à un moment. Donc on se dit, ah ben forcément, déjà rien que là, ça change. Les mobiliers ne sont plus les mêmes.
Sans que ça fasse cheap, en fait.
Et ben moi, je trouve pas, en tout cas.
Non, mais c'est parce que ça veut dire que c'est. Franchement, c'est réussi.
Je vous inviterai à le voir. Et puis les acteurs aussi sont formidables. Ils sont criants de vérité. Ouais. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, on se dit pas que ça a été tourné pour un jeu vidéo. On se dit que c'est vraiment des chutes qu'on retrouve, qu'on pourrait retrouver dans un making-of de n'importe quel film de Jean-Jacques Hano, etc.
D'accord.
Notamment Manon Gage, que je trouve incroyable comme actrice. Elle a un charisme, elle est, en termes d'actrice, elle est dingue, elle est super belle en plus, elle a une présence à la caméra qui est dingue, et vraiment on se dit, mais cette pauvre nana, tout ce qui lui arrive, etc., c'est compliqué. On se retrouve à mi-chemin entre l'enquêteur et le réalisateur, définir entre ce qui est du concret, ce qui est de la fiction, ce qui est de l'invention, ce qui est de le trafic des images, etc.
Oui. C'est un film français c'est un film.
Non.
Tu vois comme quoi je dis film. Mais...
Non, c'est un jeu. Il est britannique, je crois, Sam Barlow.
Et Manon Gage est une actrice.
C'est une actrice franco-américaine.
Ah, ok, d'accord. Ouais.
Pas mal.
Qui est, tu la vois, ouais.
Ouais.
Et puis, je trouve qu'elle a en plus, on le voit pas forcément sur les photos, elle a déjà un visage.
Elle est très grande.
Elle est très grande, très élancée. Mais surtout, c'est en mouvement que je trouve qu'elle prend tout son charisme, parce que elle a des expressions de visage qui sont très expressives. Qui nous donnent une approche. On y croit en fait. Quand elle nous parle, on n'a pas l'impression que c'est un acteur qui a été pris au coin de la rue pour. Voilà, elle a fait des castings, elle a fait plein de choses, et c'est un vrai concept.
Je viens de regarder les photos. Je te confirme que c'est une excellente actrice.
Elle est productrice aussi.
Donc on a ce sentiment de rassembler les pièces d'un puzzle qui finit par dépasser la simple histoire de l'actrice disparue, en fait.
Elle a fait la Juilliard School à New York quand même. C'est une formation de théâtre qui est hyper prestigieuse.
Ah oui, non. Ouais.
C'est...
Alors parfois, ça a été dit un petit peu tout à l'heure, le jeu devient même un peu difficile à suivre parce qu'il y a tellement d'images et de détails analysés qu'on peut se retrouver un peu. Ça peut être amené à prendre des notes, peut-être pour certains, je ne sais pas, mais moi je ne l'ai pas fait. Parce que si vous coupez un petit peu, si vous arrêtez pendant 4-5 jours, il y a un moment, dire attends, j'en étais où quoi.
À rebrancher les films.
Eh oui.
Donc ça peut être compliqué. Donc des fois, il faut revisionner, relire les images, mais on peut reclasser. Par ordre, en fonction de ce qui nous intéresse, est-ce que c'est par chronologie? Oui, Ludo.
Non, c'est ce qu'il a fait.
Pardon, je te laissais. Parce que je vois, il y a les affiches des trois films dont tu parles, et ça, je trouve ça génial, en fait.
Ils sont jusqu'au bout du truc. Vraiment, c'est assez dingue comme.
Alors qu'on a cru que tu l'avais vu en maillot de bain. C'était très bizarre, ce.
Et donc, finalement, on a des images animées, hein, bien sûr, qui, mises bout à bout, finissent par dessiner un portrait assez angoissé, voire de plus en plus angoissant, d'une actrice au dessin assez obscur qui se dessine sous nos yeux. Je vous en dis pas plus, mais on voit que voilà. De toute façon, vous savez qu'elle a disparu, donc à un moment, vous doutez bien qu'il y a, quelque chose qui se trame.
Il y a une couille dans le pâté.
Alors, une fois que je vous ai dit ça, moi, c'est un jeu que j'ai adoré. Tout n'est pas parfait, par contre, c'est vrai que l'interface est un peu épurée, est un peu peut-être austère et difficile à appréhender au premier abord. On se demande un petit peu peut-être par quoi commencer. Ça peut être une grammaire à appréhender. Une ergonomie qui n'est pas toujours évidente, qui peut éventuellement être un frein par moment si on n'a pas envie de. Si on peut peut-être se perdre, et puis une fin qui peut diviser, voilà, parce que sans trop vous en dévoiler du tout, c'est une fin qui est ce qu'elle est, et voilà, je vous parlais un peu de David Lynch, de plein de choses comme ça. On peut adhérer, on peut ne pas adhérer. Moi, au final, la fin, comme pour beaucoup de choses, c'est pas quelque chose qui me préoccupe. C'est encore une fois, c'est pas
c'est
la destination,
le
c'est le voyage.
Qui est important,
voilà.
Évidemment.
Et c'est une expérience qui m'a tellement embarqué que finalement, je dirais pas que je lui pardonne tous ses défauts, mais c'est vraiment quelque chose d'assez unique pour moi.
Ouais, celui-là, tu l'as gardé dans la gorge.
Comme Christelle pour moi.
Oh, c'est beau.
Un truc plus dégueulasse. Je suis presque étonné.
Alors, je vous invite quand même. Enfin, je vous préviens quand même.
Sur quoi ?
Le jeu n'est pas tout public.
Néo Geo.
Il est explicite par moment, donc c'est pas forcément pour des jeunes
Atari.
Étudiants, pour des jeunes enfants,
ah bon
pardon. Il y a de la nudité, il y a un peu de sexe, il y a de la violence physique, la violence psychologique. Il y a une ambiance qui peut être assez oppressante si vous êtes sujet au stress par rapport à certaines choses. Il y a des choses qui peuvent être un peu oppressantes. Il y a un mélange de thriller érotique, des fois nanardesque. On va jusqu'à l'horreur pas psychologique en passant par de l'enquête, du surnaturel, certaines incongruités à la David Lynch comme je vous ai dit, notamment je vous parlais de fait de faire parler les personnes à l'envers. Et d'ailleurs l'un des scénaristes du jeu n'est autre que son collaborateur Barry G. Ford, avec lequel il avait co-écrit Lost Highway. Donc vous voyez si vous connaissez Lost Highway, voilà, des choses de cet ordre là alors il y a aussi un message derrière qu'on retrouve, notamment des questionnements sur ce qu'est l'art finalement, puisqu'il utilise l'objet cinématographique pour parler un petit peu de ce qu'est l'art justement dans le qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce qu'il y a un côté élitiste qui transparaît un petit peu de temps en temps sur ce qui serait plus valorisable que d'autres, etc. Il y a aussi un message sur l'industrie du cinéma et les moyens pour parvenir à ses fins dans ce milieu. Donc on revient un petit peu sur, on parlait tout à l'heure du business, mais aussi sur malheureusement des sujets qu'on évoquait en tout préambule avec Christelle, les paillettes qui laissent vite place à des images beaucoup plus sombres, révélatrices d'un système qui fabrique des vedettes pour mieux les broyer ensuite, notamment les femmes qui sont utilisées. Et puis à partir de quand tu n'es plus bankable, et finalement est-ce que cette Marissa Marcel n'est pas peut-être pas l'arbre qui cache la forêt, ou au contraire l'élément qui nous permet de nous dire, mais finalement cette personne-là, si son destin bascule de cette façon-là, est-ce que tout ne faisait pas en sorte d'y arriver? Voilà. Donc il y a ces petits messages qui transparaissent.
Un peu comme l'anthropode. Un peu comme Starlet, Didou.
On voit aussi des carrières.
Ont disparu. Donc comme je vous disais, le jeu dure une dizaine d'heures au maximum. À savoir que le jeu est en anglais, sous-titré en français, mais il n'y a pas de version française, donc vous avez le jeu des acteurs en direct, ce qui nécessite aussi une concentration supplémentaire, parce que quand vous devez observer ce qui se passe aux images, ce qui se passe en sous-titres, etc., si vous êtes un peu à l'aise en anglais, ça peut vous aider, je pense.
Du coup, si t'es un peu con comme Freddy, c'est compliqué ce que t'as fait.
J'en suis sûr.
De toute façon, il n'écoute plus Freddy, donc.
Si, c'est cool.
Et pour revenir à la question de Christelle, où est-ce qu'on peut trouver le jeu? Le jeu est disponible à l'achat dématérialisé,
chez
uniquement
Carrefour.
Dématérialisé.
Uniquement
dématérialisé.
Tu crois pas si bien dire.
Sur console et sur PC pour une vingtaine d'euros. Alors à savoir qu'il était
sur
le Game Pass de Xbox, donc il est sur PC, n'importe quel PC, il est sur Xbox, sur PlayStation, il n'est pas sur Switch. Et puis on le sait pas forcément, mais Netflix dispose également d'un catalogue de jeux.
Mais oui, c'est vrai.
Dont Immortality, sur lequel vous pouvez jouer sur smartphone et sur tablette si vous êtes abonné. Il fait partie de votre abonnement en fait.
Oui, on peut pas jouer à partir de la télé.
Je crois que c'est que sur.
Il faut une manette quand même.
Sur téléphone. En fait, tu joues sur téléphone.
Parce que sur téléphone, tu regardes.
12 gigas par contre.
Il est assez lourd peut-être. C'est des images vidéo en fait. C'est beaucoup de vidéos. Mais si vous avez un iPad par exemple, ou des choses comme ça, vous pouvez le faire sur iPad. Mais donc, il est disponible à l'achat pour une vingtaine d'euros. Moi, je trouve que c'est pas très très cher par rapport à l'expérience. Et puis si vous avez un abonnement, alors moi j'étais un peu dégoûté parce que je l'avais lancé, je vous ai dit, je l'ai mis pris à plusieurs fois, il était dans le Game Pass, je suis abonné à Microsoft Game Pass, donc c'est la partie des jeux sur lequel on peut jouer gratuitement. Et le jour où je veux me relancer, il venait de sortir du Game Pass, j'ai payé 20 balles avant de découvrir qu'il était gratuit dans mon abonnement Netflix. Voilà, c'est pas très grave,
con.
Mais alors en même temps je suis content de contribuer à ce jeu vidéo d'auteur qui sort un petit peu des grands films, des grands jeux style Call of Duty, FIFA, où finalement il n'y a que des itérations d'année en année. Là, on peut ne pas adhérer forcément à la proposition, mais c'est tellement original que je voulais le mettre en avant. Parce qu'il y a du cinéma, il y a plein de choses, il y a du jeu vidéo, il y a de l'interactivité. Si vous aimez le cinéma, et particulièrement le cinéma de genre et les coulisses du cinéma, je pense que ça va vous plaire. Moi, j'ai vraiment adoré l'expérience. Je vous ai assez bassiné, Ludo et Arnaud, j'en ai déjà parlé depuis quelques mois de ce sujet-là, donc je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui. C'est une expérience qui est unique pour moi. C'est pas forcément facile à expliquer. J'espère vous avoir donné envie d'aller creuser ce sujet, parce que j'ai pas donné beaucoup trop de détails parce qu'il y a des choses qui pourraient, mais peut-être vous, chez Carnot notamment, est très sensible au spoil, donc il y a des éléments qui pourraient casser l'expérience. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc Immortality sur console, PlayStation, Xbox, sur PC via Steam et sur les tablettes et smartphones via l'abonnement Netflix si vous le voulez. Voilà.
Incroyable.
Voilà ce que je pouvais vous dire.
Merci.
Jeu. Très très
envie. Moi, ma crainte, c'est je l'avais chargé donc 12 gigas déjà, donc j'étais aux limites.
Je ne sais pas si je peux en fait.
Et puis, mais effectivement, après, tu peux le projeter sur ta
télé,
en podcast.
Oui.
Donc, mais après, moi, c'est toujours le temps à y consacrer. Ouais. Et comme tu le disais, là, certainement un jeu où vaut mieux tu devais enchaîner.
Une période où tu es en vacances, par exemple.
Parce que sinon, tu risques de perdre le fil.
C'est un peu ça qui me.
Mais je pourrais vous montrer pour voir un peu les images de ce que ça peut donner comme... Alors il faudrait que je reprenne une session, parce que sinon ça risque de vous spoiler peut-être quelques images. Je vous montre juste la toute première séquence.
Ah non, ça donne envie.
Voilà pour Immortality.
Perfect.
Eh ben, nous voilà.
Juste pour, dans le genre, et ce petite parenthèse, un jeu qui me bluffe, hein, Marius, quel Marius joue en ce moment. Non, mais
donc là, tu fais ton coup de cœur.
Cyberpunk.
Cyberpunk 2077.
Oh, là, franchement, avec. Oui, donc j'aimerais faire une petite rubrique. Là, j'ai 30 minutes, vous me laissez.
Il sort des feuilles.
Je lis des choses comme ça, etc. Et là, j'avoue que. Alors, moi, je suis pas jeu vidéo spécialement et tout, mais j'ai été. Fait partie des jeux que j'ai trouvé.
C'est visuellement dingue. Incroyable. Je l'ai, mais j'ai pas encore le temps d'y jouer parce que
incroyable.
C'est
incroyable. Visuellement et au niveau de la profondeur, Et au niveau de la profondeur de l'histoire, etc., les interactions que tu peux faire, je trouve ça fascinant. La
musique. Mais voilà la musique.
Ah oui.
Vous voyez un
c'est
peu
autre chose qu'Octantrion.
C'est angoissant.
Je la rajouterai. Et vous voyez, ça c'est la musique d'intro quand vous lancez le truc et on sent que.
Il n'a pas envisagé d'accorder son piano, lui.
Il y a une ambiance. On sent qu'il y a quelque chose qui déconne un petit peu dans ce qu'on va voir, quoi.
Donc, typiquement, le genre de conneries qui pourrait me plaire, quand même.
On n'est pas loin de
Twin Peaks. Non, j'ai peur. C'est comme quand tu joues à Myst.
Ah, exactement.
Alors moi Myst j'ai jamais pu hein.
C'est vrai.
J'ai attaqué et je n'y arrivais pas parce qu'en fait moi les jeux de logique et les énigmes et les casse-têtes et tout, je suis comme Freddy. Non mais c'est vrai, je suis complètement con. Riven, putain, je suis resté devant le truc, je sais que j'ai des potes qui ont fait tout jeu, j'ai bloqué dès la première énigme et j'ai laissé tomber le jeu.
Moi quand j'étais gamine, j'ai joué à un jeu, je me rends compte aujourd'hui, j'avais pareil 10 ans mais j'imagine Soline devant ce truc. C'était un jeu d'ordinateur avec l'histoire d'un magicien. Ah, comment ça s'appelait ? Fantasmagoria.
Ah oui.
Oh putain.
Avec PH.
C'était c'était ultra violent.
C'est pas des séquences vidéo ça ?
Ouais. Il y avait des séquences vidéo.
Ouais, t'avais des full motion
mais oui,
à l'époque.
Mais oui. Et pareil, c'était un jeu d'enquête. T'avais des choses à chercher dans l'écran et j'avais trouvé ça génial. Mais alors la fin, il y avait des scènes ultra violentes pour mon âge. Pour le coup,
c'est pour ça que j'ai préféré prévenir que Immortality, le faites pas avec les filles en leur disant vous allez voir un truc sur le ciné.
C'est quoi le monsieur avec la dame là ?
Ouais, c'est ça. Puis pourquoi la dame elle a plein de sang ? D'accord.
C'est bizarre.
Parce qu'on a ses règles sûrement.
Parce que le god est rêche, mais.
Oh putain.
Mais le Judith. Hop là, ça c'est fait.
Mais où vous êtes chercher tout ça ?
Dans son esprit.
Voilà, c'est lui qui a dû participer aussi à la réalisation. Et pour terminer notre émission, nous allons nous attaquer à la minute chrono, nos coups de cœur, coups de gueule en 60 secondes. Arnaud, c'est quand tu veux.
Moi, je voulais vous parler du spectacle de Yann Marguet qui s'appelle Exister Définition, qui se joue au Lucernaire à Paris depuis février et jusqu'à aujourd'hui, en tout cas début juin 2024, avec deux séances uniquement par semaine, le vendredi et le samedi à 21h30. Et je conseille vivement d'aller voir ce spectacle. C'est Yann Marguet, c'est un humoriste qu'on a découvert via Quotidien, en fait, qui visiblement officie depuis un moment. Sur la télévision et radio suisse et qui a un spectacle qui est un spectacle bien écrit, drôle, fin, trash aussi de temps en temps, méchant et en même temps c'est un dialogue entre entre lui, Yann Marguet, qui est sur scène dans un décor assez dépouillé, et un dialogue avec une entité supérieure incarnée par la voix de Morgan Freeman en français,
petit écho
au Bruce tout puissant, et Yann Marguet on revient à parler de son existence, de notre petitesse de notre existence dans cet fabuleux univers et beaucoup de choses avec un site qui s'appelle relativiser.org qui m'a beaucoup marqué dans son spectacle qui est assez rigolo. Excellent spectacle, vraiment
très bien. Mais merci beaucoup Arnaud, je connaissais pas moi, pas du tout. Christophe, tu as de la musique toi.
J'ai un petit son
donc c'est quand tu veux, Christophe.
Alors donc, moi, je vais vous parler d'un album musical, un premier album d'un groupe qui s'appelle Astral Bakers, rien à voir avec notre ami Steve, qui s'intitule The Wall Story. Donc, quatre musiciens et musiciennes, donc deux garçons aux guitares et deux nanas à la section rythmique, basse, batterie. Donc, je trouve ça assez original. Et 10 titres d'un rock folk mélancolique, joué tout en douceur, à l'atmosphère un petit peu irréelle, planante et parfois électrisée. Des mélodies sensibles, un style épuré et précis qui compose donc ces 10 titres de ce premier album. Moi j'ai trouvé ça c'est juste magnifique et je vous laisse écouter le titre I Don't Remember.
Merci Christophe. Christelle, à ton tour, c'est parti.
Eh bien moi, je vais vous parler d'un spectacle qui s'intitule « Toute une vie sans se voir » qui se joue au Studio Héberto à Paris et qui retrace l'amour à distance de Véronique Sanson et de Michel Berger, qui n'ont cessé de se dire leur amour par chansons interposées. Alors on a deux musiciens et c'est vraiment ceux qui ont écrit et qui interprètent le spectacle. Donc Julie Rousseau dans le rôle de Véronique Sanson et Bastien Lucas dans le rôle de Michel Berger, dans une mise en scène de Stéphane Olivier Bisson. Et franchement, ils interprètent tous les deux au piano, ils chantent, ils jouent. C'était un bijou et c'était un vrai tire-larme. Le public était attendait les moments où elle jouait au piano assez fort pour pouvoir retirer discrètement son mouchoir et se sécher les larmes. C'était très émouvant et ça m'a fait racheter des vinyles de Véronique Sanson. J'ai adoré. Vraiment, je vous conseille.
Ah bah super, merci.
Je crois qu'il était bélier aussi, Michel Berger.
Alors, je voyais à ton regard que tu allais dire un truc. J'ai fermé les yeux avant la fin. Freddy, c'est quand tu veux.
Alors, moi, c'est un coup de cœur pour le livre La fin des hommes de Christina Sweeney Baird, un roman fiction paru il y a pile 2 ans, disponible en poche chez Gallmeister aujourd'hui. L'histoire va vous rappeler quelque chose. Écoutez ça. 2025, une mystérieuse maladie baptisée le fléau se répand dans le monde entier. Elle ne touche que les hommes et très vite, les fils, les maris et les pères meurent.
Ah, enfin !
Tandis qu'une moitié du monde s'écroule, des femmes s'élèvent et réagissent de l'Écosse à Singapour, de la Russie aux États-Unis. Alors vous allez me dire, ouais, un peu facile, elle a tout pompé sur le Covid. Oui, mais non, elle avait écrit tout ça, toute cette histoire en 2019. Et alors, c'est assez fou, hein, les ressemblances avec la réalité sont absolument troublantes. On suit beaucoup de femmes à travers le monde, peut-être un peu trop, à mon sens. Non, c'est dans le sens éparpillé. Des femmes trouvent leur place dans cette société nouvelle. Le point de vue féministe, assez évident et pertinent, ne l'emporte pas sur l'histoire elle-même, mais il y apparaît assez naturellement. Une belle expérience de lecture que je vous recommande, ça s'appelle « La fin des hommes ».
Merci.
Super, merci Freddy.
Très intéressant, oui.
Ça l'est.
Virginie, t'as un petit chrono, un petit truc, non ?
Non. Bon, aujourd'hui ? Non, ouais, j'ai rien, moi.
On se dit que c'est freestyle.
Non,
hein.
Mais ça va être rapide.
Eh ben, ouais, ben, Arnaud nous a dit la même chose.
Tu parles de quoi ?
Allez, quand tu veux, Virginie.
Alors, moi, je voulais vous conseiller un site, un blog culinaire.
Ah, j'ai eu peur. Dommage.
Qui s'appelle...
Oh, le boulet.
Attends,
ah bah voilà, ça y est, j'ai déjà 10 secondes de grillé.
On recommence.
Ludo, c'est moche.
C'est le four qui a fait tout.
C'est moche.
C'est un chrono d'une seconde.
Touche pas les trucs, tu
ah, il m'a mis 31 minutes.
Arrête.
Ça, c'est pour ses rubriques à lui.
Non, mais laisse-la, c'est pas grave.
Non, mais c'est pas grave, vraiment, j'en ai pas besoin.
Allez, vas-y, continue.
Donc, un petit blog culinaire qui s'appelle C'est ma fournée. La blogueuse s'appelle Valérie, elle donne des recettes à elle et des recettes de grands cuisiniers genre Michalak, Ottolenghi. C'est des recettes sucrées salées, hyper bonnes. Moi, j'ai jamais été déçue par les recettes qu'elle donne. Et c'est très bien fait parce que elle met des photos de toutes les étapes. Donc, quand elle nous demande de faire un mélange, on sait à quoi ça doit ressembler, ce qui peut être utile des fois. Et elle fait des petits liens aussi vers des ustensiles qui sont pratiques à utiliser pour la recette. Il y a des interactions avec les lecteurs, lectrices qui mettent leurs petits grains de sel dans les recettes. Et fait des espèces de petites mises à jour aussi pour améliorer les recettes. Enfin bon, je trouve ça super. Elle écrit bien, elle est marrante et c'est très bon. Et les petits muffins que j'ai apportés viennent de ce une recette de ce site.
Désolé,
mais vraiment, c'est
le muffin, mon coup de cœur de l'émission. Moi.
D'ailleurs, vous les avez gardés par devers vous, j'ai envie
de dire.
Le fait de mettre un petit grain de sel, ça dénature pas la recette.
Pas du tout.
C'est ce qui est bon dans le gâteau.
Ça sublime le chocolat.
Ouais, tout à fait.
Ah, voilà.
Voilà. Ah, voilà. Tu la garderas pour toi la prochaine remise.
Voilà. Tiens, bim.
Et bam.
Ludo.
Oui.
Ludo, tu as de la
une minute, ton ami.
Oui.
J'ai trouvé dégueulasse.
Non, mais je tiens. C'est aujourd'hui.
C'est quand
quelle tu veux,
Ludo.
Ah ouais, moi je vais vous parler donc de Slift en fait. Bah oui, oh tiens, quelle surprise. Surtout leur dernier album qui s'appelle donc Ilion, qui est sorti en janvier 2024. Ce que vous entendez là, c'est Confluence, qui est un morceau qui est extrêmement, on va dire, calme, en tout cas au moins au départ. Il n'est pas forcément représentatif de l'ambiance de l'album général, puisqu'en fait l'album est juste énorme en fait en termes de son. Il est tellurique, j'ai pas d'autres termes, c'est tellurique. C'est un trio, les gars sont de Toulouse, les frères Fossa, ils ont été signés sur le label Sub Pop, donc une référence, et franchement c'est une expérience hallucinante à vivre, à écouter. Moi je c'est cosmique, c'est tout ce que j'aime. Les gars sont brillants, surtout. Alors je vous dis, vous entendrez que c'est pour m'accompagner dans le son, mais allez jeter un coup d'œil sur cet album là. Je suis pas sûr que tout le monde aime quand même.
C'est de la musique électronique ou
non? C'est
des vrais instruments.
Ah, le four.
C'est cuit.
C'est plutôt très lourd quoi.
C'est...
Et donc à mon tour pour le dernier coup de cœur. Donc moi je vais vous parler. Vous écoutez peut-être cette musique là. Je vais vous parler de deux musiques en fait, de deux spectacles que j'ai eu l'occasion de voir.
C'est
le premier qui était concert d'Echo Irune, musique de Zelda, que je suis allé voir avec mon neveu par The Necolite Orchestra au Carré des Docks du Havre. De très belles réorchestrations, réinterprétations des musiques iconiques de Zelda par cet ensemble de super musiciens. Ça donne envie de relancer tous les Zelda car les musiques sont hyper évocatrices. The Necolite Orchestra, c'est un ensemble qui propose plusieurs spectacles issus des univers imaginaires: Harry Potter, Nausicaa, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, Doctor Who, etc. Donc c'est
à jouer, ça devait être génial. Les musiciens doivent s'éclater.
Et puis je suis allé voir aussi avec ma fille la semaine dernière Caravan Palace au 106, le rock électro swing qui a mis le feu au 106. J'ai vu des étoiles dans les yeux de ma fille, rien que pour ça m'a fait ma soirée. En plus ça joue à mort, c'est hyper entraînant, c'était top, un super moment dernièrement. Voilà, ça change un petit peu de ce que j'écoute habituellement, enfin ce que je propose.
Moi je vais dire honnêtement, les mecs qui semblent s'amuser sur scène, ça me chuchote un peu quand même.
Ça se voyait quand tu jouais, hein.
Alors non, là non,
c'est rien par rapport au public.
Non, tiens, moi
c'est moins pire que le public.
Voilà, c'est la meilleure. Ne pas ma blague, s'il te plaît.
Trop tard.
Non, moi ce que j'aime bien, c'est de voir les gens se faire chier en me regardant.
Une fois, j'ai mis un sac de farine à ma place.
Je crois que la boucle est bouclée.
Et ben ça tombe bien puisqu'on arrive à la fin de cet enregistrement. Et merci Christelle,
c'était laborieux.
Pour cette transition.
Ouais,
bah. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous en tout cas on a passé un bon moment sans invité, ouais. Avec moins de rubriques, mais finalement on a tenu aussi longtemps.
8 heures. 8 heures.
Moi, à part les 3 rubriques, le reste est formidable.
Donc n'hésitez pas à nous faire savoir, comme je vous disais, ce qui vous a plu, ce qui vous a peut-être moins plu d'ailleurs, à venir échanger vos expériences, ça soit sur Le Nom de la Rose, ça soit sur Immortality, le jeu que j'avais, ou sur votre expérience de femme ou de vision de la femme que
ou
vous pouvez avoir, etc. Exactement. Il n'y a aucun souci, nous on est ouvert à ça, vous avez plein de canaux pour ça. Il y a le site sur lequel vous pouvez mettre des commentaires, il y a le Discord, il y a les réseaux sociaux.
Jean-Jacques, parlez de canaux. Jean-Jacques Canaux.
Et donc sur les réseaux sociaux, vous nous retrouvez sur les habituels, hein, Facebook, Twitter, X, enfin on n'y est plus, enfin moi j'y suis plus, donc voilà. Insta, on est dessus, sur LinkedIn même, effectivement. Et puis on est sur des petits nouveaux, Threads, sur Blue Sky et sur TikTok, puisque j'ai créé un compte sur TikTok dernièrement.
On est jeunes.
Et nous, on est complètement à la masse. Hein.
Donc je vois que tout le monde.
Je suis abonné au compte TikTok.
J'ai parlé, il n'y a pas grand chose pour l'instant, c'est juste un truc que j'ai fait, mais voilà, il y a quelque chose en plus, voilà, l'idée c'est de
on
proposer.
On pourra faire des danses.
Des choses différentes. Ouais. Bah, fait des danses, il y a plein de choses. Et donc sur le site entrepod.fr, vous retrouverez nos articles, tout ce qu'on a pu présenter dans cette émission. Il y a le répondeur, comme l'a rappelé Freddy tout à l'heure, tout le monde peut en profiter, en abuser.
Pas seulement lui.
Sans problème. Exactement. Sur Tipeee, vous pouvez nous témoigner votre soutien en nous laissant un pourboire, qu'il soit ponctuel ou régulier. Sur Apple Podcasts et les autres applications de podcast, vous pouvez nous témoigner votre soutien avec des étoiles et surtout des commentaires. Rejoignez-nous sur Discord si vous le souhaitez. On a une newsletter aussi qui part tous les mois, dans laquelle on rappelle un petit peu des éléments. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va se retrouver, hein, mais on a pris un bon rythme de croisière. Là, ça va être le 4e épisode qui va sortir en 2024.
On ne nous arrête
donc, mine de rien, c'est quand même un bon rythme. Et d'ici là, où est-ce qu'on va vous retrouver ou peut-être vous croiser, messieurs, dames, avant le prochain épisode? Arnaud, as-tu une actualité ou des choses à partager?
Alors, des choses à partager. Nous serons le 23, si l'épisode est monté d'ici là, à Paris, voir le spectacle de Julie Duval, dont on a entendu énormément de bien. On va avoir Gotenner au Trianon transatlantique le 26 mars. Gotenner qui joue les textes de son spectacle avec un guitariste.
Excellent.
Nous voyons Benjamin Biolay au 106 le 29 mars.
Enfin.
Et puis, si d'ici là on n'a pas eu de nouvel épisode, H comme Arnaud au 14B,
13 avril.
Cuvillon, The Place to Be, le 13 avril.
Ici le 13 avril, je ne suis pas sûr qu'on ait refait un épisode, donc c'est bien de l'annoncer. Très bien, Christophe, à part là tout de suite, mais c'est trop tard pour les gens de venir voir tes expositions
oui,
d'aquarelle.
Oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire, à moins que l'épisode soit monté dès demain. effectivement,
écoutez.
Demain, c'est le dernier jour d'une expo où j'expose quelques aquarelles. Mais bon, c'est jusqu'à demain. Donc,
peut-être une autre fois.
Donc
une autre
si fois, vous arrivez à voyager dans le passé, vous pouvez venir.
C'est bien ça, c'est un bon concept.
Voilà.
Très bien. Christelle, as-tu des éléments?
Eh bien, moi, j'aimerais bien participer ou vous inviter à participer au week-end du 6 avril au Offflow Battle, qui est une compétition de danse hip-hop qui va se dérouler à l'ECFM de Canteleu. C'est la 11e édition du battle de référence en Normandie. Donc, ça se passe le 6 pour les stages de danse avec les membres du jury et le 7 pour le battle en lui-même avec le concours. C'est organisé par mon prof de danse qui a un site sur lequel vous pouvez retrouver ça qui s'appelle stillandfeeling.com et franchement venez voir ça parce que dans la région c'est pas fréquent et on passe un vraiment bon moment pour ceux qui sont fans de hip-hop, de house et de ce qu'on appelle les danses urbaines.
Tu peux rappeler la date?
Trop bien. Week-end du 6 avril. 6-7 avril.
Merci Christelle.
Avec plaisir.
Freddy,
tu l'as mis sur le calendrier familial?
Je crois, oui.
C'est ce moment, vous avez des choses à vous dire, Arnaud Garbini aussi?
Ouais.
Eh bien, ECFM toujours, l'espace culturel François Mitterrand de Canteleu, The Place to Be, pour H. Burns.
Ah oui.
Avec mais ouais.
Grapes en première partie, le groupe Avray fait son retour, c'est cool. H. Burns pour le Sunset Park Live, c'est-à-dire la présentation de son dernier album, tout simplement, sur scène. Et on a hâte, un artiste qui fait que des grands disques, formidable.
Trop chouette.
H-Burn, ça veut dire H-Burn, ça veut dire casse-couille en.
Ça veut dire.
Je lui demanderai, il sera ravi, je pense.
Coucouille.
Tu l'avais fait jouer avec Europe Enco, non?
Non, c'est à vie de passage. Ah, d'accord. Fait dans la cave de l'Emporium.
C'est un groupe que.
C'est là que je l'avais découvert.
D'accord.
Très longtemps.
Ok. Virginie, as-tu quelque chose?
Eh bien, à ajouter par rapport à Arnaud, parce qu'évidemment, je suis toujours collée à Arnaud.
Évidemment, évidemment.
T'es pas obligé, tu sais, maintenant que tu
libère
peux.
Libère-toi,
faire
libère-toi, merde.
Non, mais, fais
gaffe de pas lui marcher dessus quand même, parce que. Par inadvertance.
Non, mais oui, quand même. Le premier week-end d'avril, donc c'est pour ça que je discutais avec Arnaud, parce que c'est peut-être le week-end du. Voilà. Je serai à l'abbaye, dans les jardins de l'abbaye de Saint-Martin-de-Beaucherville.
Oh, classe!
C'est une. Comment ça s'appelle? À l'heure des récoltes, il me le semble. Et voilà, il y a des pépiniéristes, entre autres. Et nous y serons avec mes copines Valérie et Nathalie pour vendre nos Zoya.
D'accord. Alors, si vous voulez savoir.
Zoya des filles de bord de Seine.
Voilà, les Zoya des filles de bord de Seine. Donc, voilà, les Zoya, c'est les jars d'irrigation en terre cuite pour les jardins, les pots de fleurs. Voilà. Et on sera aussi à Graines de Jardin cette année.
D'accord.
Oh, yes. À nouveau.
Au parc, au jardin des plantes d'Oran.
Qui se déroule
exactement.
Quand, d'ailleurs.
C'est mi-mai.
Mi-mai. Troisième week-end de mai.
Voilà. Ouais, merci, okay. Freddy. Exactement.
Wow. Lulu.
Eh ben moi, on pourra me retrouver donc dimanche 23 mars, 6h10 tapante, à la matinale de lancement d'une nouvelle association dont je suis le parrain. Ça s'appelle Caribou Zegnou. Alors, on y causera d'autobus, de hibou, et comment qu'ils peuvent coexister ensemble avec des gnous, les humains. Gros événement, gros battage médiatique. Je compte sur vous, les gens, les bus, elle est ouh, c'est aussi, ils sont tous là. Voilà.
Nous est bourrica.
Non, on l'a pas.
Mais c'est par la l'envers.
Par la l'envers, comme dans une pince.
Bon, si on y a ce soir, mais les gens s'en foutent.
Ce soir, ça sera trop tard. Voilà, très bien. Eh ben, écoute, merci Ludo. Et pour ma part, je serai à Podren le dernier week-end de Pâques, donc les 30 et 31 mars, je crois, oui, c'est ça.
Oui.
Le dernier week-end de Pâques.
Le dernier week-end de mars, tu as raison.
Mars, mais c'est le week-end
de Pâques, voilà. Donc le festival annuel de podcast qui fête sa 11e édition cette année. Nous, on y est allé une fois pour enregistrer. On en a fait une ou deux à distance. Une à distance.
Deux à distance.
Deux à distance. Et on a fait. Et puis, moi, j'y vais depuis deux ans aussi, comme ça, en simple.
Mais on n'a pas fait la première fois qu'on y a été, c'était pas la deuxième édition ?
Ah non, on était là en 2017, nous. Ah. Ou 2018, je sais plus.
Je suis à la ramasse.
C'est pas grave. Donc, ça va être sympa, encore une fois, des ateliers, l'occasion de découvrir de nouvelles productions, de rencontrer d'autres podcasteurs, etc. Donc, si vous avez l'occasion, c'est gratuit, c'est un événement qui est gratuit. C'est dingue. Je prends un petit temps parce que je suis hyper bluffé à chaque fois que j'y vais. Ils reçoivent plus de 100, 150 personnes. On paye pas la bouffe. On paye pas le café. Il y a des éditions toute la journée. C'est sur deux jours. C'est des bénévoles qui passent. Il y a la team cuisine qu'il faut féliciter. Il y a toute l'organisation, etc. On est accueillis. Les gens ont le sourire. C'est bienveillant. C'est une petite bulle, une petite parenthèse, un peu comme quand on se retrouve de temps en temps hors du temps. Et moi j'aime bien cet événement. C'est un élément. C'est les podcasteurs pour les podcasteurs, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est à Rennes dans peu de temps. Donc n'hésitez pas à aller sur podrennes.fr pour en savoir plus. L'association Bad Geek qui organise ça. Donc ça c'est ce que je vais faire prochainement. Vous pouvez me retrouver sur Twitch. Je fais du jeu vidéo et de la discussion avec mon pseudo Narguilé. Je ne mets pas des jeux comme Immortality parce que justement c'est une chose. C'est pas tellement ça. C'est que l'expérience. Si quelqu'un veut y jouer après, il y a pas de rejouabilité.
Ouais,
donc si on voit qu'une partie, ça peut.
Ouais.
C'est des jeux qui n'ont pas forcément de caractère narratif. Le but c'est plutôt de jouer et puis de prétexter pour échanger avec des gens de temps en temps. J'ai pas 50 000 viewers, mais vous pouvez venir et puis c'est marrant, c'est de présenter des sujets. J'aime bien cette expérience. On sera cette année encore une fois avec Marius, cette fois-ci pas Ludo, mais au Hellfest. Nous avons été encore une fois accrédités, c'est pas dingue ça.
C'est fait, hein.
Alors avec une petite nuance cette année, Marius n'a pas eu l'accréditation photo.
Ah dommage.
Il est forcément déçu.
Ouais, tu m'étonnes.
Si jamais il y a des gens qui sont qui gèrent des médias, qui nous écoutent et qui voudraient faire en sorte que Marius fasse des photos pour eux, parce qu'en fait, ils ne donnent pas d'accréditation photo pour des médias audio. Donc si par exemple il y avait un média papier ou internet, etc., qui voulait des photos,
c'est
l'occasion, vous pouvez le faire. Marius a des copains qui font ça. Ils se font missionner par un média qui leur demande d'aller faire des photos. Ça pourrait être un moyen d'avoir des choses. Vous me verrez aussi au concert de Dionysos le 10 avril au 106
avec Troy Van Balthazar.
Oui, en première partie, exactement.
Oh, excellent.
J'ai vu ça.
J'ai vu.
Et puis H comme Arnaud au 14B le 14 avril prochain. Voilà un petit peu quelques éléments de sortie. Il y en a pour tous les goûts.
Oh, vraiment,
c'est ça qui est cool. On le voit, on s'ennuie pas. Hein. La vie est belle quand on ne s'ennuie pas. C'est beau. Et donc, je vous propose de vous libérer après cet épisode interminable. De vous dire, alors est-ce qu'on remplace le allez bisou par le salut,
salut.
De
Luzon salut
zou bi le a
allez, en tout cas on se dit salut à la prochaine, allez
salut
zou bi le a.
Quesadilla, 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 quesadilla.